Claire, c'était intéressant le.
Bon, ben, du coup, on va continuer. Je vais continuer à raconter des histoires. Voilà. T'as un peu l'impression de faire les histoires, mais enfin, bon, c'est pas grave. On va continuer comme ça. Bon, donc, du coup, la semaine dernière, j'avais pris deux cas, un peu exceptionnels quand même, de ce qu'on appelle le haut Moyen-Âge, disons, de la période mérovingienne. Exceptionnel, puisqu'on avait une femme qui était vierge consacrée, disons, du diocèse de Paris, enfin, d'une certaine manière, qui en même temps faisait quand même des milliers de choses dans tous les sens. Et deuxième cas exceptionnel, c'est-à-dire Sainte Radegonde, qui, pour fuir son mari, finissait par inventer une forme de vie un petit peu nouvelle, en tout cas pour le côté féminin, c'est-à-dire la vie religieuse. De monial tel que ça n'existait pas vraiment en fait avant. Donc voilà. Donc ça, c'était un peu le contexte dans une situation de, disons, de femme, une situation européenne quand même extrêmement troublée. Mais alors, moi, je me faisais cette réflexion ce matin que on dit, on parle toujours des temps troublés dans lesquels nous sommes. Mais en fait, je suis pas sûr qu'il existe une seule période de l'histoire qui n'ait pas été troublée. Donc c'est peut-être plutôt notre lot commun. C'est pas, enfin, c'est comme ça. Simplement, quand on est dans une période troublée, on rêve un moment où c'était mieux. Je suis pas sûr que les gens qui vivaient à l'époque où on pense que c'était mieux, ils le pensaient vraiment. En fait, voilà. Donc ça c'est quelque chose. Mais c'est quand même important parce que notre rapport au passé, il est quand même souvent mythifié. Voilà. Et c'est vraiment encore plus vrai pour le Moyen Âge. Enfin, c'est assez amusant quand vous lisez des livres. D'époques diverses sur le Moyen Âge. Parce que vous avez tout et son contraire qui est dit. Mais vraiment tout et son contraire. Voilà, je vais vous parler là tout à l'heure de l'abbaye de Fontevraud. Vous avez des opinions exactement contradictoires qui sont émises dessus, mais je pense que ça vient de ce que on cherche à tout prix à enfermer le passé dans quelque chose. Voilà. Bon. Moi, j'essaye de faire en sorte que. De ne pas faire comme ça, en fait. Vous savez, c'est aller pour moi à la rencontre du passé, ce n'est pas très différent que de rencontrer quelqu'un. Donc, si vous rencontrez quelqu'un et que vous le mettez dans une boîte, il y a une chose qui est à peu près sûre, vous ne l'aurez pas rencontré. Si vous lisez le passé en le mettant dans une boîte, bah, c'est pareil. En fait, c'est vraiment pareil. En fait, c'est pour ça que voilà, l'histoire, c'est une discipline qui oblige à une certaine finesse personnelle, en fait. Il n'y a pas le choix, en fait. Voilà. Alors, je voudrais aujourd'hui faire un petit bond dans le temps. C'est un peu comme pour les reliques, on fait des petits sauts en regardant là ce qui se passe disons, 12e, 13e siècle. Et comme ça, la semaine prochaine, on avancera avec les 14e, 15e siècle et j'espère terminer avec le 17e siècle. Enfin, non pas que je pense que l'histoire se soit arrêtée au 17e siècle, mais enfin bon, faut bien s'arrêter quelque part. Voilà. Alors, j'ai intitulé ça Femmes dans la société et dans l'Église, 12e, 13e siècle. Donc, c'est-à-dire, peut-être que ce que je voudrais faire avec vous ce soir, c'est réfléchir à la manière dont. Certaines femmes trouvent leur place dans la société tout en trouvant leur place dans l'Église. Vous voyez, ce n'est pas des choses qui sont séparées, en fait. Voilà. Alors, je vous ai mis normalement deux références bibliographiques qui ne sont pas très récentes, mais à mon avis, elles ne sont pas vraiment vieillies. Donc, ça se trouve très facilement. Régine Pernoud, La femme au temps des cathédrales.
Oui, ça
Donc,
c'est.
Paris 1980.
Oui.
Mais c'est pas, il n'existe pas mieux encore. Donc, autant continuer à lire les choses pour lesquelles il n'existe pas mieux. Et là, pour le coup, c'est dispersé, mais la grande synthèse de Jean-Marie Meyer sur l'histoire du christianisme, donc la synthèse en 14 volumes, donc c'est, enfin, vous allez me dire, c'est peut-être pas très synthétique, mais ça a un avantage, c'est vraiment l'état de la connaissance dans les années 1990. Et l'intérêt étant que Jean-Marie Meyer et tous ses collègues, ça veut bien que l'Église, ce n'est pas d'abord une institution, mais c'est d'abord des gens qui la font vivre. Et du coup, ils s'intéressent de très près à la manière dont les chrétiens vivent leur foi, la transforment, etc. Donc, c'est ce qui fait que c'est intéressant. Alors, avant de démarrer un peu avec quelques exemples, il y a deux idées forces qui me paraissent vraiment importantes à avoir en tête, parce que sinon, on partira dans le décor. La première idée force, c'est qu'au Moyen Âge, surtout au XIIe, XIIIe siècle, les femmes sont beaucoup plus libres qu'au XVIe, XVIIe siècle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'introduction un peu longuette, ce que j'avais fait, dit qu'on n'était pas dans l'histoire des femmes, ce n'est pas une histoire d'une libération progressive. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a des hauts, des bas, enfin voilà, c'est plus comme ça. Et donc en fait, 11e, 12e, 13e siècle, c'est un moment où les femmes trouvent très facilement leur place dans la société. Donc le mystère, en fait, ça sera plutôt de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu un changement au 16e, 17e siècle. J'ai quelques idées sur la question. Elles sont peut-être pas, je ne sais pas si elles sont justes, mais voilà, c'est comme ça. Donc ça veut dire que les femmes sont bien plus libres. Ça ne veut pas dire que leur place n'est pas questionnée, mais qu'il ne faut pas imaginer, dès que vous voyez une femme manifestement être très active, prendre des initiatives, que celle-là est en train de s'opposer à un système essentiellement masculin ou machiste. Parce que ce n'est pas comme ça que ça passe. Ça se passe. C'est plutôt qu'elle est libre. Vous voyez, c'est après, il faudrait faire de manière plus fine selon les endroits. Voilà. Deuxième idée force. C'est que la réforme de l'Église, c'est un mouvement permanent. Je ne sais pas si vous connaissez ce dicton. Je le mets en latin, bon, ça fait plus savant, mais c'est parce que c'est plus facile. Le latin, c'est une langue efficace parce qu'on dit en trois mots ce que le français a besoin de dire en 15 mots. Donc, c'est quand même plus facile en latin. L'Église semper reformenda. L'Église qu'il faut toujours réformer. C'est ça. Et en fait, l'histoire de l'Église, c'est l'histoire de sa réforme. Je vais le dire aujourd'hui, je le redirai lundi prochain, je le redirai encore dans trois semaines, en fait, c'est-à-dire que dans 15 jours, pardon. C'est-à-dire que le fond du fond, c'est qu'on sait bien que notre vie dans l'Église, elle n'est jamais au bout du bout. Vous voyez, ça veut dire qu'elle est notre vie dans l'Église, elle n'est pas arrivée au bout. Et on n'a pas encore dans un état idéal. Mais si ça... Moi, vous savez ce qui me rassure? Ce qui me rassure, c'est de savoir que c'est qu'on n'y sera jamais dans un état idéal. Donc, si quelqu'un veut imaginer établir une église idéale aujourd'hui, je vous assure d'un truc, c'est qu'il va se tromper. Et ceux qui ont essayé, ils ont essayé au XVIe siècle, si je puis me permettre, ils ont eu de gros problèmes. Ça s'appelle les anabaptistes de Münster. Et ça s'est terminé en guerre civile. Donc, en fait, il vaut mieux éviter de prendre ce genre de chemin et avoir l'humilité plutôt de se dire, bon, bah, il y a une réforme permanente. Et le principe de cette réforme permanente, c'est toujours de revenir à l'Évangile, de toujours revenir aux actes des apôtres. Pas par archéologie, mais parce que l'Église apostolique, elle est un peu pensée comme Église idéale. Alors après, on comprend quelque chose ou pas, mais voilà. Donc ce mouvement permanent de réforme, c'est exactement la réforme grégorienne, pour ce qui est des 11e, 12e siècles. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la réforme grégorienne, mais la force de la réforme grégorienne tient en deux points. Et ça, c'est peut-être la chose importante parce que dans notre monde contemporain, la réforme grégorienne a mauvaise réputation. Parce qu'on voit dans la réforme grégorienne une espèce de tentative d'organisation d'une église monolithique qui devient une espèce d'institution un peu rigide. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça le but de la réforme grégorienne. Il y a deux buts. Premier but de la réforme grégorienne, et ça, on n'y prête pas assez attention, c'est de soustraire l'Église au pouvoir temporel. J'insiste là-dessus, de soustraire l'Église au pouvoir temporel. C'est quelque chose qui commence en fait en Occident latin, et ça c'est la force de l'Église latine. Et c'est là, si je puis m'exprimer ainsi pendant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, c'est la très grande faiblesse des Églises orientales, et notamment des Églises orthodoxes russes et compagnie. Mais c'est un problème qu'ils n'ont pas réglé. Voilà. Bon, il est possible qu'un jour, si on me fait revenir au CIF, que je finisse par parler de ces questions-là parce qu'elles me paraissent vraiment importantes. Donc, le service rendu par la réforme grégorienne, c'est de soustraire l'Église au pouvoir temporel, que ce soit de l'empereur du Saint-Empire ou que ce soit du roi de France ou du roi d'Angleterre. Ça, c'est la première chose. Et quand vous faites ça, ça veut dire que vous retirez au roi ou aux empereurs ou au prince le pouvoir spirituel auquel ils prétendent et vous donnez ce pouvoir spirituel de manière totale aux évêques. C'est ça le principe de la réforme grégorienne. Alors évidemment, ça a une conséquence, c'est de survaloriser la figure de l'évêque. Bon, entre parenthèses, dans l'histoire de l'Église, il y a deux moments qui ont survalorisé la réforme de l'évêque, la position de l'évêque. La réforme grégorienne et le Concile Vatican II. C'est le point commun pour ces deux moments-là, de manière assez surprenante. Deuxième acquis de la réforme grégorienne, c'est de retrouver la saveur de l'Évangile. Un moment où vous êtes, au bout de cinq siècles après la fondation du monachisme bénédictin, avec donc les grandes abbayes bénédictines qui commencent en fait un peu à s'essouffler, parce qu'elles ont grandi, elles ont des biens, elles se sont enrichies et se sont devenues, j'exagère un peu, mais disons des lieux où on cherche d'abord à gérer son patrimoine et pas tellement à vivre l'Évangile. Et du coup, la réforme grégorienne, c'est un truc qui est fascinant en fait, parce que vous vous retrouvez avec des fondations d'ordres religieux dans tous les sens, qui tous ont pour but de retrouver la saveur de l'Évangile. Alors, je vous en faire l'énumération, mais c'est les cisterciens, c'est les chartreux, c'est les prémontrés. Vous voyez, c'est-à-dire tout un tas d'ordres. Les prémontrés, c'est quand même extrêmement austère. On jeûne du 14 septembre jusqu'à la Pâque, sauf pendant la fête de Noël. C'est des vies. Les cisterciens, c'est quand même pas très marrant, de manière générale. Vous mangez que de l'herbe. Enfin, déjà, pour moi, ça, c'est le critère que c'est pas marrant. Les chartreux, c'est encore pire. Vous parlez à personne. Mais une austérité qui cherche d'abord à retrouver la saveur de l'Évangile. Voilà. Donc, ça, c'est le principe même de la réforme grégorienne. Alors, du coup, tous les gens dont je vais vous parler maintenant, quelque part, sont liés à ce mouvement-là, en fait. Voilà. Alors, du point de vue féminin, les femmes dans la réforme de l'Église, il y a un cas complètement unique et exemplaire. Alors, quand un cas est unique et exemplaire, ça pose toujours une question, c'est pourquoi ça ne s'est pas reproduit. Peut-être que ce n'était pas appelé à se reproduire. Je sais pas. Alors, mon cas unique et exemplaire, c'est donc mon premier point, c'est Fontevraud. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Fontevraud, si vous avez déjà vu Fontevraud. C'est en Anjou, dans l'actuel département du Maine-et-Loire. Les bâtiments existent toujours. Enfin, l'abbaye a été complètement sécularisée, donc c'est un peu étrange dans sa situation actuelle, comme bien des abbayes sécularisées. Mais bon, ça, c'est un autre problème, parce que moi, je fais partie des gens qui pensent que le patrimoine religieux ne doit plus être entretenu lorsqu'on n'a plus de chrétiens. Enfin, ça, je le pense très sérieusement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup trop d'églises en France, et si on voulait avoir le nombre d'églises qui correspondent au nombre de chrétiens réels, il faudrait détruire 80% de nos églises. Et dans ce cas-là, ça serait plus honnête. Mais ça, c'est un avis personnel. Vous n'êtes pas obligé de me croire, de me suivre en la matière. Alors, Fontevraud, c'est quelque chose d'assez étrange. C'est fondé par un bonhomme qui est quand même un peu marginal. Il s'appelle Robert d'Arbrissel. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de celui-là. Alors, Robert d'Arbrissel, il est né, je mets ça, 1050. En Bretagne, il étudie la théologie. Dans à l'époque, la théologie, ça s'étudie dans les écoles cathédrales, hein, parce que les universités, ça n'existe pas. Donc, il étudie la théologie dans les écoles cathédrales, à Paris, puis à Rennes. Ce qui caractérise Robert d'Arbrissel, dans ce XIe siècle, c'est que c'est un farouche partisan de la réforme grégorienne. Et vraiment un farouche partisan. C'est-à-dire que lui, il fait complètement partie de ce mouvement en disant ça ne va pas, l'Église doit être réformée. Voilà. Alors, ça veut dire que ça vous donne quelqu'un qui est extrêmement zélé. Son zèle se manifeste de trois manières. La première manière, c'est sa lutte intensive contre la simonie. Alors, la simonie, c'est une pratique qui s'était mise en place à l'époque carolingienne, à savoir que les charges ecclésiastiques, donc les charges de curé, les charges de vicaire, enfin toutes les charges ecclésiastiques, de chapelain, tout ce que vous voulez, pouvaient être achetées à prix d'argent. Donc, évidemment, un système comme ça veut dire que c'est le plus offrant qui gagne. Et puis, si ce n'est pas acheté à prix d'argent, ça peut éventuellement être hérité. Et ça vous donne tout un tas de systèmes qui est en plus condamné de manière formelle par les actes des apôtres en disant que la vie dans l'Église, ça ne s'achète pas à prix d'argent. Alors, lutte contre la simonie, qui est son premier cheval de bataille, parce que c'est quand même quelque chose qui empoisonne. Parce que comment pouvez-vous expliquer aux gens que vous vivez l'Évangile quand dans le même temps, vous avez acheté votre charge, voilà. L'Église a inventé un système tout à fait complexe pour corriger ça, mais bon, c'est le système des bénéfices, mais c'est une chose un peu complexe. Deuxième cheval de bataille de Robert d'Arbrissel, il s'oppose de manière très forte au mariage des prêtres. ou à l'existence de prêtres mariés. Ça veut dire que Robert d'Arvissel est un farouche défenseur du célibat sacerdotal. Vous savez, il sait de quoi il parle, parce que c'est le fils d'un prêtre. Donc c'est quelque chose comme ça. Bon, ça je le dis à titre de boutade, ça n'épuise pas la question. Quand je regarde ce que sont les philosophes allemands du XVIIIe siècle, ils sont tous, et du XIXe siècle, ils sont tous fils de pasteurs. Donc je me dis, bah, les pasteurs auraient mieux fait de ne pas avoir d'enfants, parce que si ça donne des gens qui s'appellent Kant, qui s'appellent Feuerbach, qui s'appellent Fichte, c'est quand même assez Hegel, c'est quand même assez étrange. Voilà. En tout cas, fils de prêtre, il s'attaque au mariage des prêtres pour des raisons à la fois financières. Ça, c'est le point qui généralement est connu. Mais il y a un autre point qui est méconnu, également pour des raisons spirituelles. En gros, les raisons financières, c'est assez facile. C'est que le prêtre marié a du coup des questions patrimoniales à gérer. Or, s'il a acheté sa charge à prix d'argent, vous comprenez bien que du coup, il a intérêt à avoir une charge qui rapporte beaucoup pour pouvoir faire vivre sa famille. C'est une question aussi simple que ça. Là, ça, c'est la question financière. La question spirituelle, elle est de l'ordre de dire comment est-ce que je fais pour avoir un cœur partagé, c'est-à-dire pour à la fois m'occuper de ma famille et pour m'occuper de mon peuple. C'est de cette manière-là que les choses sont dites, parce que le XIe siècle, j'en reparlerai la semaine prochaine, est vraiment le moment qui médite le mariage. C'est vraiment le moment de la mise en place du mariage chrétien, et sans que du coup, si le mariage est plus qu'un simple contrat, ça devient difficile de vivre cela en même temps que le sacerdoce. Voilà. Là, bon, ça se joue sur des choses très concrètes, tu partages de ce que l'on vit, parce qu'il y a des choses qu'on ne partage pas. Bon, voilà, mais ça, c'est peut-être que je projette des questions contemporaines, mais en tout cas, moi, ma vie est tellement remplie que je ne sais pas comment je pourrais avoir une famille en plus. Et ça, c'est une question très concrète. Voilà. Troisième élément de la réforme grégorienne, selon Robert d'Arvissel, il devient un ermite. La forêt de Cran. Le problème de cet ermite, donc, si vous voulez, c'est l'idée, j'abandonne le monde pour me consacrer à la prière. Le problème de son ermitage, c'est qu'il a trop de succès. Donc, quand un ermitage a trop de succès, ça veut dire que les gens viennent le voir. Ça n'est plus un ermitage, c'est exactement ça le problème. Du coup, il décide de fonder un monastère. Alors, c'est là qu'on va finir par vouloir retrouver des questions féminines. Comme il est dans la forêt de Cran, le seigneur de Cran, enfin, je ne sais pas comment on prononce, parce que c'est dans des régions de France que je ne connais pas, le seigneur Renaud de Cran, Craon, d'accord, pardon, le seigneur Renaud de Cran finit par lui octroyer une terre. Cette terre va être le lieu de fondation de l'abbaye de Sainte-Marie de la Roë. On est en 1096.
Ah oui.
Robert d'Arvissel reçoit les encouragements du pape Urbain II. Parce que Urbain II, c'est le grand pape de la réforme grégorienne. Donc, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui fonde un truc nouveau. Et le problème, c'est ce qui se passe autour de Robert d'Arvissel. Parce que à Sainte-Marie de la Roë, ce n'est pas vraiment un monastère. Enfin, imaginez pas une abbaye cistercienne avec des murs. Ça ressemble beaucoup plus à un campement de hippies. Enfin, je pense que c'est vraiment le terme le plus proche qu'il puisse y avoir. C'est-à-dire des espèces de gens complètement déguenillés qui se rassemblent autour de Robert d'Arvissel, hommes et femmes mélangés, de toutes conditions. Riches, pauvres, célibataires, mariés, veufs, veuves, enfin vous avez tout. Des jeunes, des vieux, une espèce de ramassis de gens de toutes les catégories. Et pour le monde médiéval, ça c'est très embêtant. Parce que le monde médiéval, c'est un monde organisé. Vous voyez, l'abbaye bénédictine, c'est le chef-d'œuvre d'organisation. Et là, vous avez quelqu'un qui rassemble autour de lui des gens qui ne sont pas organisés. Mais qui sont autour de Robert d'Arvissel uniquement parce que c'est quelqu'un qui donne en quelque sorte la saveur de l'Évangile. C'est ça, en fait, le fond du fond. Alors, des gens qui se rassemblent autour de lui, avec un mélange d'hommes et de femmes. Alors simplement, quand même, Robert d'Arvissel est quelqu'un de sérieux. Hein. C'est un peu comme les JMJ, si vous voulez. On met d'un côté les hommes, de l'autre les femmes. Et Robert d'Arvissel se met au milieu. entre les deux. En dépit des accusations, sa vie, semble-t-il, a été parfaitement chaste. Mais la question se pose, parce que du coup, ça finit par faire scandale. Alors, je vous ai mis, ça c'est le premier texte que je vous ai mis, parce qu'il est assez révélateur des choses. Donc, il est écrit par un certain Marbode, évêque de Rennes. Bon, c'est une longue lettre que Marbode envoie à Robert d'Arbrissel. Alors, ça, c'est la lettre de correction fraternelle, qui est de dire, tu fais quelque chose, on ne comprend pas tout, mais il y a quand même des points sur lesquels on t'invite à la prudence. Alors, c'est assez intéressant de voir comment Marbode fait, parce qu'il n'en invoque pas son autorité. De toute façon, ce n'est pas sur ses terres. Ce n'est pas chez lui, hein, je veux dire, ce n'est pas son diocèse, c'est pas. Mais il cherche à aider Robert d'Arbrissel à se réajuster, en quelque sorte. Si vous voulez, c'est un peu un mode. Je pense que c'est le truc, ça m'étonne vraiment que ça n'ait pas existé. Je livre ça à votre problème, surtout pour les gens qui ont connu cette période. Je ne comprends pas que les franciscains, qui avaient un terrain tout trouvé, ne soient pas devenus hippies dans les années 1970. Vraiment, ça, je ne comprends pas, parce que c'était leur créneau, en fait, et ils ont raté ce créneau, alors que ça aurait été un lieu d'évangélisation assez extraordinaire. Mais là, vous voyez, c'est-à-dire de comprendre une espèce de campement de gens qui ne vivent même pas dans le dur, hein, c'est plus de la cabane de paille qu'il n'y a pas de pierre. Hein, voilà. Alors, on va lire le texte, parce que ça, c'est très révélateur. On dit, racontard, que tu préfères la cohabitation des femmes. Alors, la phrase juste avant, c'est des réflexions sur ses vêtements, en disant, écoute, tu t'habilles quand même pas très bien, c'est pas terrible, mais c'est pas très grave. Enfin, on peut supporter que tu sois mal habillé. Là, donc on dit que tu préfères la cohabitation des femmes, genre de péché dans lequel tu es autrefois tombé, donc renvoie à la vie antérieure, comme si tu t'appliquais à expier la souillure d'une faute ancienne par un exemple de vie religieuse nouvelle portant sur la même matière. Alors, le raisonnement de Marbode est le suivant. Tu étais alcoolique, et pour montrer ta force aujourd'hui, tu t'entoures de bouteilles de whisky, de rhum, etc., et tu ne touches pas à une seule bouteille. C'est exactement ce que dit Marbode. Là où Marbode est sage, c'est que son raisonnement consiste à dire, mais c'est en fait extrêmement dangereux, puisque si tu avais la tentation, je reprends mon exemple de l'alcool, mais c'est pour mieux faire comprendre. Si tu as la tentation de l'alcool et que tu t'entoures de bouteilles d'alcool, tu risques un jour de faiblir. Ça, c'est la sagesse. Okay. De manière simple, voilà. L'objet de tentation doit être éloigné, c'est plus facile que s'il est juste à côté. Voilà. Tu les juges donc dignes, à ce qu'on rapporte, non seulement de partager ta table dans la journée, donc on mange ensemble, entre parenthèses. C'est encore vrai dans pas mal de sociétés à l'heure actuelle, hein, hors d'Europe. Je ne sais pas, ça c'est une ignorance que je confesse, je ne sais pas de quand date le fait que les hommes et les femmes mangent ensemble en Europe occidentale. Imaginez pas que ça ait toujours existé. Probablement que c'est en place au XVe siècle. Je ne suis pas sûr que ce soit en place avant. Voyez, c'est pour ça que partager la table peut être scandaleux. Mais en plus, tu partages le lieu de couchage pendant la nuit, avec également le troupeau des disciples qui couchent ensemble, dans le sens où chacun a son matelas les uns à côté des autres, de sorte qu'étendu au milieu des uns et des autres, tu prescris à chaque sexe les lois des veilles et du sommeil. Ça veut dire que les hommes et les femmes, alors comme les religieux, vous savez, c'est des gens sérieux, hein, donc on veille la nuit, donc on veille par roulement, de manière à faire en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un de réveillé. Et donc, ce que reproche Marbode, c'est qu'il n'y ait pas de séparation des hommes et des femmes dans ces veilles. On dit que ces femmes suivent les pas de ta pérégrination. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que le premier monastère de Sainte-Marie de la Roë, c'est un monastère itinérant. Alors, en fait, c'est très simple. C'est que si vous avez un campement qui n'est pas vraiment en dur, très rapidement, vous aurez des problèmes d'hygiène. Et donc, la meilleure manière de résoudre le problème d'hygiène, c'est l'itinérance. Bon, c'est la même raison qui fait qu'à l'époque, les armées ne campent jamais plus de 10 jours au même endroit. Parce que sinon, ça devient juste un nid d'infection. C'est aussi simple que ça. Donc, tous ces gens-là marchent ensemble et siègent sans cesse auprès de toi quand tu discours. Alors, voyez que l'évêque Marbode n'est pas du tout sensible au modèle évangélique. voyez, il ne fait pas du tout de Robert d'Arbrissel, le nouveau Jésus, avec les saintes femmes dans son entourage. Pour Margot, ce n'est pas dans son schéma. Son schéma, c'est dans un monde normal, les hommes et les femmes sont séparés. Ça ne veut pas dire que les femmes sont assujetties. Ça veut juste dire que ça ne se mélange pas. Or, Robert d'Arbrissel fait scandale parce qu'avec lui, ça se mélange. Et vous remarquez que c'est un homme qui fait le mélange. On affirme aussi qu'en divers lieux et diverses régions, tu as réparti dans des hospices et des hôtelleries un nombre non négligeable de femmes que tu as pour ainsi dire affectées, en les mêlant non sans dommage à des hommes à offrir leur service aux pauvres et aux pèlerins. Donc, ça veut dire que le mouvement de Robert d'Arbrissel, ce n'est pas juste un campement hippie, c'est aussi la fondation de divers hospices et de diverses hôtelleries. Et le reproche fait par Marbode, c'est que les tenants de ces hospices ne respectent pas la séparation des sexes. En fait, c'est très simple. C'est de dire, du coup, dans le même hospice, on a des hommes et des femmes mélangés. Et ça, ça pose problème. Combien cette action a été dangereuse? Voilà le point important de Marbode. Pour parler bref, des vagissements des bébés l'ont révélé. Alors, il le dit ça avec beaucoup de délicatesse, mais vous voyez ce que dit l'évêque Marbode, mais ça, c'est l'autorité ecclésiastique qui s'exprime. C'est que mettre ensemble des hommes et des femmes, même pris, même avec toute leur sincérité, tout leur désir de bien faire, c'est prendre des chemins assez dangereux. C'est la phrase de saint Paul, l'esprit est ardent, la chair est faible. C'est aussi simple que ça. Peut-être que certains, ça pourrait surprendre, mais je crois que la sagesse, c'est cela quand même. Je vais dire ça comme ça. Je vais me le dire de manière un peu dure, mais lorsque j'étais séminariste à Rome, j'étais très frappé par le fait que les profs de théologie morale que j'avais à Rome considéraient qu'il suffisait de vouloir faire une chose pour la faire, alors que l'expérience commune, c'est le contraire. C'est plutôt quelque chose comme ça. Sur ce chapitre, donc, la plupart des gens critiquent ton genre de vie. Bah oui, parce que ça fait scandale. Non seulement des hommes d'église, et ça c'est, voyez, la force de Marbode, mais aussi des laïcs. Ça veut dire, c'est pas juste moi, évêque de Rennes, qui proteste parce que je suis un évêque célibataire, etc., mais aussi les laïcs qui sont scandalisés par votre manière de faire. Alors, évidemment, Marbode ne précise pas de quel laïc il s'agit, parce que dans le même temps, il y a quand même un véritable engouement pour Robert d'Arbrissel. Et à juste titre, puisque les lois divines et humaines protestent d'évidence contre cette compagnie. Je continue avec les accusations de Marbode, parce que ça touche du doigt des choses importantes. Et permet de comprendre pourquoi Robert d'Arbrissel n'est pas très aimé ou pose problème à ces gens-là. Alors, il continue plus loin dans sa lettre en disant « Je me tais sur les jeunes filles qui, je l'ai dit, ont fait leur profession religieuse sans examen et que sitôt leurs vêtements changés, tu as enfermé dans des cellules distinctes. » Alors là, tout d'un coup, moi je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je lis ça, j'ai l'impression de voir les débuts des communautés nouvelles dans les années 80. C'est-à-dire que le reproche de l'évêque de Rennes, c'est l'absence totale de discernement de Robert d'Arbrissel. Vous voyez, c'est plutôt Robert d'Arbrissel, si vous voulez, dans l'Église, c'est la figure du charisme. Donc le charisme généreux, vous voulez suivre Jésus, vous venez à ma suite, tout va bien, on est ensemble, et sans aucune prise de conscience de ce que cela peut avoir en matière de danger, etc. Alors évidemment, moi j'appartiens à une église hiérarchique, donc je suis peut-être plus sensible à la prudence. Mais dis ça, pour le coup, je sors de mon cours, mais comme vicaire de paroisse, ça m'est quand même déjà arrivé de penser vraiment, là, le charisme va trop vite. Et on ne peut pas suivre quelque chose comme ça. Alors, ça veut dire que des jeunes filles ont été accueillies par Robert d'Arbrissel, qui, enfin, moi je lis entre les lignes, mais en gros ça veut dire elles avaient un désir de suivre Jésus authentique. Elles ont un bonhomme qui leur ouvre des portes quand même assez intéressantes. Elles y vont. Et Robert d'Arbrissel ne fait aucune mise à l'épreuve, contrairement à toutes les habitudes de la vie monastique. où le système actuel qui est très long est mis en place en fait très vite. C'est l'idée que la vie monastique, c'est, enfin, pour fabriquer une moniale, il faut 9 ans. Pour fabriquer un moine, il faut 9 ans. Enfin, c'est énorme en fait, 9 ans hein, dans une vie. En raison précisément de cette nécessaire prudence. Alors là, du coup, il dit, bah, tu accueilles les gens, tu vérifies pas que ça peut marcher. Dès qu'ils arrivent, tu leur changes de vêtements, c'est-à-dire tu leur donnes un habit religieux. Tu les mets dans des cellules. Donc même si la garde de la règle les encadrait, il ne fallait pas peu craindre pour leur commencement. Et Marbonne, c'est très concret hein, comme lettre. Hein. Aussi, le résultat lamentable de cette action en montre-t-il la témérité. Alors, je rappelle le scénario. Vous êtes dans vos hôtelleries, vos hospices, le monastère hippie, et vous avez des hommes, des femmes mélangés. Les femmes sont accueillies comme religieuses, sans discernement. Elles prononcent donc des vœux, parce que profession religieuse, ça veut dire des vœux. Et qu'est-ce qui se passe? Résultat lamentable, les unes, en effet, leur accouchement imminent, se sont échappées après avoir brisé leur prison. D'autres ont accouché dans leur cellule même. Commentaire de Marbotte, cela ne serait pas arrivé si ta prudence mesurait le résultat de ces actes, ou si tu faisais soigneusement attention aux paroles du Seigneur par lesquelles il enseigne à mesurer les forces des porteurs pour installer les charges. Alors, ça veut dire que, alors que Robert d'Arbrissel est complètement du côté du Seigneur Jésus, entouré par sa bande de demi-clochards itinérants, l'évêque Marbode, lui, est bien davantage du côté des paroles de Jésus sur comment est-ce qu'on fait pour fonder. L'arrière-plan de cette histoire des porteurs pour installer les charges, c'est notamment la parabole de la tour. Si je veux construire une tour, je dois d'abord vérifier que j'ai les moyens de le faire. Du coup, ce qu'il dit, Robert Marbode, c'est dit, enfin, l'accusation est quand même forte, hein, parce que ça veut dire tu as mis dans le pétrin des gens, alors que ton rôle aurait été de les aider à vivre l'évangile à leur mesure, sans aller trop vite, sans aller trop loin. Le charisme, c'est bien, mais tout seul, ça part dans le décor. Donc, Robert d'Arbrissel, c'est quelqu'un qui dérange. Ça, c'est très clair. Notamment par cette espèce de compagnie double. Bon, voilà. Toujours est-il qu'il a un très grand succès. Sainte-Marie de la Roée, ça devient Fontevraud. Vous avez vu, fondée en 1096. Eh bien, en 1119, 20 ans après, vous avez 30 fondations dépendantes de Fontevraud. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Bon. C'est un peu, alors, en fait, c'est toujours des systèmes, un peu quand dans l'Église, vous avez tout d'un coup un truc qui fait fureur, ça se répand partout. Et si ça ne finit pas par atteindre la sagesse de la hiérarchie, ça se casse la figure. Alors, pour Fontevraud, ça ne s'est pas cassé la figure, mais de manière étonnante. Donc, en 20 ans, 300 moniales, 70 moines à Fontevraud. Alors, je voudrais maintenant en venir à l'originalité de Fontevraud, parce que c'est ça, en fait, l'affaire. Donc, il s'agit d'un monastère double. Monastère double avec, d'un côté, des moines, de l'autre, des moniales. Vous avez compris que Robert d'Arbrissel, lui, la séparation des hommes et des femmes, ce n'est pas vraiment son truc. Hein. Donc, il les sépare dans des bâtiments en dur, parce qu'il comprend que quand il y a trop d'enfants qui naissent dans tous les coins, c'est quand même pas terrible pour des gens qui ont fait vœu de chasteté. Mais... pour lui, on doit pouvoir vivre cet évangile d'une certaine manière, de manière commune. Du coup, à Fontevraud, et c'est encore vrai dans les bâtiments, deux bâtiments de part et d'autre de l'église abbatiale. Alors, vous avez du coup quand même une séparation. Hein. Il y a un bâtiment pour les femmes, un bâtiment pour les hommes. Et où est-ce qu'on se rencontre? À l'église abbatiale. Où là, à l'église abbatiale, il n'y a pas de séparation. Vous voyez, ce n'est pas un système, on dirait, enfin, il y a la partie des hommes et la partie des femmes, mais on se retrouve pour prier. C'est un peu des systèmes, dans les monastères doubles actuels, c'est le système des olivetins. Les olivetins que vous avez au Bec-et-Louin, enfin, bon, tant qu'il y en aura encore, je ne sais pas combien de temps, au Ménil-Saint-Loup, c'est encore pire comme remarque, ou en Terre Sainte à Bougoche, des monastères doubles hommes-femmes. Vous voyez, au XIe siècle, ça, c'est un truc qui n'existait pas. En fait, avant, vous aviez des monastères d'hommes, des monastères de femmes, mais vous n'aviez pas tellement d'abbayes doubles hommes-femmes. Alors que lorsque Robert d'Arbrissel fonde ses abbayes doubles, c'est un système qui va finir par être répété ailleurs, y compris chez les bénédictins et les cisterciens, dans des abbayes médiévales. Donc ça veut dire qu'on finit par trouver que quelque chose d'intéressant à ce système, à condition de respecter la stricte séparation des moines et des moniales. Véritablement stricte séparation. Alors, la séparation d'ailleurs est tellement stricte qu'il est inimaginable qu'un prêtre rentre dans la partie féminine de Fontevraud. Donc, que se passe-t-il s'il faut donner la communion à une religieuse mourante ? Pas très facile. Vous la transportez dans l'église. Là, on lui donne la Sainte Communion, puis après, elle retourne dans sa chambre. Deuxième particularité de Fontevraud plus originale. À la tête du monastère, pas un abbé, mais une abbesse. Ça, c'est véritablement original. Je vous ai mis un certain nombre de textes pour aider à comprendre cette affaire. C'est les statuts de Fontevraud et quelques extraits. Alors, la règle 44, que Pétronille, élu par Maître Robert, moi j'aime bien élu par Maître Robert, hein. Ça veut dire choisi par Maître Robert, constitué abbesse par la commune volonté et la pieuse requête tant des moniales que des frères religieux. Je reviendrai sur cette figure de Pétronille, mais tant des moniales que des frères religieux. Vous avez vu ? Ça veut dire que on n'est pas dans un... Les frères, ça ne leur pose pas spécialement de problème d'obéir à une femme. Que cette Pétronille détienne et conserve pleine puissance de diriger l'église de Fontevraud et tous les lieux dépendants de cette église. Ça veut dire la trentaine de fondations. Pleine puissance, c'est la potestas plena. En termes juridiques, c'est très fort, hein, parce que la potestas, c'est le pouvoir de commandement. C'est donc le pouvoir de sanction, le pouvoir de juridiction. C'est pas simplement de dire tu vas ici, tu vas là, c'est aussi du coup le pouvoir de juger. D'accord. Donc c'est quelque chose d'assez fort. Donc que les moniales et les frères religieux lui obéissent, la vénèrent comme leur mère spirituelle, et que toutes les affaires de l'Église, tant spirituelles que séculières, restent sous son contrôle, ou reviennent à qui que ce soit à qui elle les aura attribuées et selon ce qu'elle aura établi. Donc, Pétronille devient l'abbesse toute puissante de Fontevraud, tout simplement. Alors, qui est cette Pétronille ? Eh bien, c'est tout simplement la veuve du sire de Chemillé. Bon, Chemillé. Ça, c'est une histoire un peu étonnante. Parce que celle-là, elle est arrivée uniquement par curiosité. Elle est venue pour voir un peu qui étaient ces gens-là qui allaient à Fontevraud. Voilà. C'est une femme jeune, belle.
Quand même dans le même coin.
Pardon ?
Oui, c'est dans le même coin. Dans le Maine-et-Loire, c'est dans le même coin.
Oui, c'est dans le même coin. Mais quand même, elle vient par curiosité. Alors, c'est une jeune veuve, jeune, belle, intelligente. Donc, elle aurait dû se remarier. C'est ça qui était logique. Et elle arrive là et elle y reste. Mieux encore, sa sœur Agnès et sa tante Milésine, on va encore avoir un petit répertoire de prénoms si jamais vous avez besoin de suggérer ça pour vos enfants ou vos petits-enfants. Sa sœur Agnès et sa tante Milésine viennent lui rendre visite, elle reste. C'est extraordinaire hein, quand même, tous ces gens qui débarquent juste par curiosité et qui finalement ne repartent jamais. Alors, tant l'idée de Robert d'Arvissel, les l'abbesse de Fontevraud ne doit pas être vierge. C'est le statut 46. Je reviendrai sur le statut 45 après. Enfin, le 45 n'est pas très intéressant. Enfin, le 46, qu'à la mort de l'abbesse, elle conserve la dignité de son statut et est pleine puissance de diriger l'Église jusqu'à ce qu'une autre abbesse prenne la succession. Donc, ça, c'est la prieure, peu importe. Choisie parmi les sœurs converses comme maître Robert l'a établi. C'est ça le point important. Jusqu'à ce qu'une autre abbesse prenne la succession, choisie parmi les sœurs converses. Alors, dans le système monastique médiéval, vous avez une distinction ferme entre les moniales de cœur et les sœurs converses. Il y a la même chose chez les frères. C'est un système qui a été aboli dans les années 50 et aujourd'hui, les monastères s'en repentent amèrement. Parce que, ça a été aboli parce que ça avait réintroduit dans les monastères une distinction sociale, puisque en général, les moniales de cœur étaient les femmes de l'aristocratie ou de la bourgeoisie et que les sœurs converses étaient les femmes de la paysannerie. Puisque les moniales de cœur étaient astreintes à tous les offices et à l'étude, alors que les sœurs converses, elles, étaient astreintes aux travaux des gens. Je dis que les monastères actuels, beaucoup, pour certains, se lamentent de la disparition des frères converses, des sœurs converses, parce que c'était un moyen d'accueillir dans la vocation religieuse des gens qui ne sont pas capables de vivre au cœur. Et que du coup, on s'est privé de quelque chose, parce que, enfin, moi, j'en ai connu des gens comme ça, qui ont un vrai désir de vie religieuse qu'on ne peut pas accueillir dans les systèmes actuels et on ne sait pas comment faire. Si ce n'est leur dire, bah, tant pis, retourne chez toi, mais c'est un peu dommage. Voilà. Mais ça, c'est comme ça. Alors, pourquoi est-ce que la mère abbesse doit être prise parmi les sœurs converses et, comme notre maître Robert l'a établi, ça veut dire également parmi les veuves, donc pas parmi les moniales. Peut-être pour deux raisons. La première raison, c'est, outre l'affaire de Pétronille, c'est que la veuve a eu l'expérience du mariage. Or, elle va commander à des hommes. Vous voyez, ça se joue à ce niveau-là. Ce n'est pas pour dire que toute personne qui a été mariée saura commander, mais pour dire que celle qui a été mariée aura une capacité à commander à des hommes. Donc ça, c'est un élément, si vous voulez, anthropologique. Un élément théologique, maintenant, ou spirituel, c'est que le modèle évangélique, c'est Jean 19, 25, 27. Je ne sais pas si vous connaissez par cœur ça. C'est lorsque Jésus était sur la croix, il vit auprès de lui le disciple qu'il aimait et sa mère. Et il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Et au disciple, « Mon fils, voici ta mère. » Et à partir de cet instant, il l'a pris chez lui. Ça veut dire que pour Robert d'Arvissel, le modèle de l'Église, c'est ça. Vous savez, l'Église, c'est la question à 1000 francs. Bon, le franc, ça ne fait plus grand-chose, donc ce n'est pas très grave. Mais là, c'est en gros de se dire, quand est-ce que l'Église a commencé ? Alors, il y a une des théories qui dit, ben, l'Église commence là. Et dans cette figure maternelle, mais de la maternité qui suppose du coup le mariage. Qu'on retrouve, nous, dans les images, quand on parle de notre mère, l'Église. Et du coup, ce que dit Robert d'Arvissel, c'est que la mère Église, ça doit se voir à Fontevraud, qui est un peu une sorte d'exemple de l'Église idéale. Vous voyez ? Donc, du coup, l'abbesse doit être mère, donc veuve. Alors, plus délicat. Cette abbesse, du coup, commande aux frères. Et les frères dépendent étroitement des sœurs. C'est ce qui est marqué à la fin. Alors, ce n'est pas le paragraphe 46, mais c'est la fin de la règle. Ces préceptes, pour mener une vie droite, pour mener une vie droite, c'est ça qu'on vise, pour obéir au Seigneur et à la bienheureuse Marie, et pour servir les moniales de Fontevraud, maître Robert les donna aux prêtres, aux clercs, aux laïcs qui, par son enseignement, auront pris l'habit de sainte vie. Donc ça, c'est l'introduction aux préceptes destinés spécifiquement aux hommes, avec l'ordre hiérarchique, prêtre, Les clercs. Alors, les clercs, faites attention, ce n'est pas les religieux. Hein. Les clercs, c'est ceux, dans le langage médiéval, c'est ceux qui ont étudié. Parce que le clérus, en latin, c'est celui qui a fait l'étude. Ce n'est pas autre chose. C'est, dans un second temps, c'est parce que ceux qui faisaient les études devenaient des membres du clergé que clerc a fini par dire le religieux. Et les laïcs, dont tous les autres. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Je vous ai mis quelques articles. Donc, lorsqu'ils auront pris l'habit de sainte vie de leur propre volonté et par pure inclination, donc liberté, ils auront promis de servir les moniales sous le joug d'obéissance jusqu'à la mort. Alors, voyez, ce n'est pas juste une obéissance à l'abbesse qui resterait dans sa maison, c'est une obéissance des hommes à toutes les moniales. Peut-être pour apprendre aux hommes cette dimension du service. C'est parfois voilà, une question posée. Petit, le paragraphe 2. Qu'ils mènent une vie claustrale et commune, sans bien propre, se contentant de ce que les moniales leur auront attribué. Alors là, c'est très clair. Nos moines ne possèdent rien en propre, mais le monastère masculin ne possède rien non plus. Alors que dans les monastères doubles traditionnels, bénédictins, cisterciens, vous avez chaque monastère a son autonomie de propriété. Voyez-les. Alors que là, les frères ne possèdent rien, uniquement ce que les sœurs veulent bien leur donner. On espère qu'elles sont quand même un peu généreuses. Mais bon. En particulier, elles leur donnent la nourriture. D'où le paragraphe 6. Que les restes des repas des frères soient portés à la porte des moniales et soient donnés là aux pauvres. Ils ne peuvent même pas garder leur reste. Vous voyez, c'est l'idée, c'est de dire on avait trop à manger, et ben ça ne va pas partir au frigo chez nous. Non, on ne possède tellement rien que s'il nous reste quelque chose, ça repart chez les sœurs qui ensuite le distribuent aux pauvres. Que si un frère désobéissant, le paragraphe 24, s'en va et par la suite se repent et revient, il soit reçu à l'hôtellerie selon l'ordre de l'abbesse et après avoir achevé sa pénitence, demande la miséricorde de l'abbesse et soit reçu par elle dans la communauté des frères. Donc, le cas de figure, c'est quoi? Un frère qui en a un peu marre de son abbaye, qui s'en va. Donc ça, c'est des choses qui, dans toute la vie monastique, est prévue. Hein. C'est le frère qui s'en va. Si jamais il revient, comment ça se passe? Eh bien, vous voyez, il dépend de qui? De l'abbesse. Vous voyez, on ne dépend même pas d'un évêque. On dépend vraiment de l'abbesse qui lui donne la pénitence et qui lui assure sa miséricorde. Ça, c'est le principe de l'autorité spirituelle de l'abbesse. D'où le paragraphe 27, que nul n'aille recevoir quiconque en religion à part l'abbesse. Alors, très concrètement, ça veut dire, je suis un frère de Fontevraud, je connais un de mes copains qui a envie de me rejoindre, eh bien, il faut que je le présente à l'abbesse. Je ne peux pas me contenter de dire, viens chez nous, quoi. Mieux encore, paragraphe 28, que nul étranger ne soit reçu dans la communauté des frères sans la permission de l'abbesse. Donc là, c'est pire. Ça veut dire que les frères ne peuvent pas accueillir quelqu'un chez eux sans que l'abbesse, la prieure, finisse par le savoir. Donc l'abbesse a l'autorité temporelle et spirituelle. Ça a deux conséquences très concrètes. Première conséquence, ça veut dire que l'abbesse de Fontevraud lit et commente l'Évangile. Ça met en question quelque chose sur lequel on reviendra la semaine prochaine, qui est le problème de l'activité d'enseignement pour les femmes, qui dans l'Église médiévale pose vraiment problème. D'ailleurs, Innocent III, 13e siècle, interdit aux femmes de commenter l'Évangile. Non, cette interdiction de l'activité de l'enseignement. Mais alors, vous savez, c'est pour revenir à la pureté des origines, puisque Saint Paul le dit, que les femmes n'enseignent pas. C'est une manière, c'est une manière de littéralisme biblique, c'est comme ça. Deuxième conséquence spirituelle de l'autorité spirituelle de l'abbesse, puisqu'elle a l'autorité spirituelle, à une époque où on ne sépare pas la direction spirituelle et la confession, ça veut dire qu'elle entend les moniales et les moines en confession. à une époque où le sacrement de confession n'est pas exactement bâti sur le même modèle qu'aujourd'hui. Vous voyez, ça, mais évidemment, ça peut surprendre, ou pas d'ailleurs, mais c'est parce que la direction spirituelle et la confession vont de pair. Moi, à titre personnel, mais c'est encore un avis personnel, je suis un farouche partisan de ce que les directions spirituelles soient largement plus répandues qu'elles ne le sont aujourd'hui, ce qui ne me pose aucun problème que des femmes exercent cette direction spirituelle. La question après se posera comment on se situe par rapport au ministère de confession, mais ça, c'est un autre problème. De fait, le même Innocent III, en 1210, interdit la confession par les abbesses, alors que c'était ce qui se pratiquait dans un certain nombre de monastères féminins. Mais vous voyez, à partir du moment où j'ai l'autorité spirituelle, je l'ai vraiment. Alors que Innocent III marque. Alors, je ne veux pas dire un retour en arrière, parce que ce n'est pas un retour en arrière, mais réserve, disons, la confession aux prêtres, donc aux hommes, au nom d'une réflexion sur le sacrement de confession. Vous voyez, ce n'est pas au nom de ce que les femmes peuvent ou ne peuvent pas faire, mais au nom d'une réflexion sur ce sacrement-là, en disant qu'il faut unir, pour pouvoir exercer ce sacrement, le sacerdoce et la juridiction. Donc, juridiction, enfin, au sens où même, enfin, c'est encore vrai aujourd'hui, la confession n'est pas automatique. Je veux dire, il y a des prêtres qui peuvent être ordonnés et ne pas avoir le droit de confesser. Ce n'est pas automatique. C'est un acte supplémentaire qui est fait par l'évêque. Et dans certains cas, il faut même passer un examen de confession. Mais ça, c'est un autre problème. Alors, ça, c'est du coup Fontevraud. Je voudrais avancer, bon, juste pour vous dire un peu ce que Fontevraud est devenu, parce que c'est quand même assez étonnant, Fontevraud. Enfin, je suis assez fasciné par ce truc-là, avec quelques femmes célèbres de Fontevraud. La première, complètement oubliée, je suis désolé, c'est Bertrade de Montfort. Bertrade de Montfort. Alors, je ne vais pas donner de comparaison contemporaine parce que ça risquerait d'être un peu injurieux pour quelqu'un, même si je pense à des gens très concrets. C'est la femme à scandale du XIIe siècle, plus du XIe, XIIe siècle. Femme vraiment à scandale. Alors, Bertrade de Montfort, c'est encore mon petit réservoir de prénom, l'épouse d'Ulfulk d'Anjou. Épouse de Fulk d'Anjou. Fulk d'Anjou, lui, ce n'est pas vraiment un modèle de fidélité matrimoniale. Hein. C'est sa quatrième épouse. Donc, il en avait répudié trois avant. Mais Bertrade de Montfort, ce n'est pas non plus un modèle de fidélité conjugale. C'est-à-dire qu'elle, tout simplement, elle prend un amant. Mais elle le choisit très haut, puisqu'elle prend comme amant le roi de France, Philippe Ier. Tout simplement. Selon une affaire un peu rocambolesque, elle se laisse enlever par le roi à Tours. Voilà. Bon, mais vous savez, c'est quand même allé loin, cette affaire. Hein. Parce que Philippe Ier est alors excommunié par Urbain II, en 1095. Comme il ne veut pas reprendre son épouse légitime, qui s'appelait Berthe de Frise, peu importe, que fait le pape? Il utilise son arme ultime. L'arme ultime, ça s'appelle jeter l'interdit sur tous les endroits où séjourne Philippe Ier. Donc, jeter l'interdit, c'est très grave. Hein, parce que ça veut dire que aucun sacrement ne peut être célébré là où séjourne le roi. Donc, s'il séjourne dans une ville, dans cette ville, il ne peut pas y avoir de culte. Donc, les églises sont fermées. Ça veut dire pas de baptême, pas d'enterrement, pas de mariage. Enfin, c'est quand même un peu embêtant quand même. À tel point que, dès que Philippe et Bertrade quittent une ville, on sonne les cloches à toute volée pour indiquer « Ouf, on est libéré !» Pourtant, Bertrade, c'est une femme chrétienne. Vous savez, le christianisme, c'est une affaire compliquée quand même. Enfin, je sais pas, moi je trouve. Ok, elle a une vie dissolue. Dans le même temps, elle reste chrétienne. Et c'est une femme forte. Comme l'interdit a été jeté là ou partout où elle passe, ben, qu'est-ce qu'elle fait? C'est très simple, elle oblige un prêtre à ouvrir une église et à célébrer la messe en sa présence. Donc c'est une femme pour qui n'a pas très vraiment compris que la messe, ce n'était pas un truc à la disposition des gens, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Femme puissante, charmante en même temps apparemment, elle arrive à calmer son époux Fulk d'Anjou tout en continuant de s'afficher avec le roi de France. Ok. de tonnerre. En 1114, Bertrade de Montfort arrive à Fontevraud. Alors qu'elle est jeune, veuve et en bonne santé. Non, pas veuve, pardon, mais elle est jeune, veuve de Foulque d'Anjou, amante toujours de Philippe Ier, en bonne santé. Et ça, c'est la force de Bertrade, c'est sa conversion. Alors que Philippe Ier, lui, a été incapable d'un tel repentir. Ça, c'est quand même assez intéressant, quand même. Enfin, je trouve à réfléchir sur ce que c'est dans cette affaire. 1115. L'année suivante, Romer d'Arbrissel, qui n'a peur de rien, installe Bertrade de Montfort comme prieur d'un couvent dépendant de Fontevraud, le couvent Haute-Brière. Le couvent de Haute-Brière est en Île-de-France, mais bon, peu importe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le moine de ce couvent double de Haute-Brière vont obéir à Bertrade de Montfort, la femme à scandale. Enfin, venez dans le système contemporain, choisissez la grande star à scandale que vous voulez dans le monde actuel, imaginez qu'elle se convertisse et qu'elle devienne, un an après sa conversion, la supérieure du couvent où elle est. C'est exactement ça l'histoire. Enfin, ça ne tient pas debout, en fait, comme truc. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. L'idée fondamentale de Robert d'Arbrissel, c'est que cette femme mette au service de Dieu son zèle et sa fougue. Vous voyez, c'est-à-dire de dire, je réoriente à Dieu ce qui pourrait être mal orienté autrement. Bertrade s'y épuise, puisque très vite, elle meurt, après 2 ans de vie de pénitence. Ceci dit, dans le monde médiéval, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, parce que lorsque je meurs, ça veut dire que je peux enfin espérer la vie éternelle. Or, si je suis chrétien, je désire la vie éternelle. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle de mourir. Une autre. Alors, c'est un peu moins scandaleux. Ermengarde. Alors, Ermengarde, c'est la fille de Foulque d'Anjou et sa troisième femme, Déarde de Beaugency. Peu importe. Ermengarde, elle aussi, elle s'est mariée plusieurs fois. Et puis la deuxième fois, elle se marie avec un certain Alain Fergan, duc de Bretagne, tout simplement. En 1112, tous deux font une chose qui est assez commune au Moyen-Âge, c'est qu'ils entrent en religion chacun de leur côté. Donc le mari devient moine, et elle entre à Fontevraud. Mais comme Ermengarde, c'est une femme forte, pas vraiment stable, lorsque son frère, bon, je suis désolé pour les généalogies, Foulque V, comte d'Anjou. Alors, Foulque V, comte d'Anjou, lui, c'est son frère, c'est son demi-frère, parce que c'est le fils de la fameuse Bertrade. Il décide de partir à Jérusalem. Il devient roi de Jérusalem. Que fait Ermengarde? Elle quitte Fontevraud. Elle part à Dijon, devient cistercienne, à l'âge de 60 ans. Parce qu'elle était très attirée par la personnalité de Saint Bernard. Je fais ce petit détour parce qu'en 1132, Ermengarde décide de partir en Terre Sainte, rejoindre son frère. Elle part avec des cisterciennes. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez le tableau. Hein. On est pendant les croisades, c'est la guerre, et vous avez Ermengarde qui part avec quelques sœurs cisterciennes en bateau pour aller dans l'actuelle Naplouse, c'est-à-dire l'antique Sichem, pour y fonder, c'est le lieu de la rencontre de Jésus et de la Samaritaine, pour y fonder un monastère cistercien. Ça ne marche pas, donc elle repart en France, où elle fonde un autre monastère cistercien, où elle meurt en 1147. Vous voyez, Ermengarde, je passe par Fontevraud, et je finis par faire autre chose. Bon. Ça, c'était juste pour avoir quelques éléments. Je continue avec mon affaire de Fontevraud parce que Fontevraud est devenue l'abbaye royale, en fait. Ce n'était pas forcément prévu, mais c'est devenu l'abbaye royale. Donc, à la mort de Pétronille, elle a vécu longtemps. Elle meurt en 1149. Lémonial Élise comme abbesse une certaine Mathilde d'Anjou. Alors, Mathilde d'Anjou, c'est la fille de Foulque V, le même que tout à l'heure. Alors, elle n'aurait jamais dû être abbesse de Fontevraud. Parce que, en 1118, Mathilde épouse Guillaume Adelin, qui est le fils d'Henri Ier d'Angleterre. Vous connaissez cette histoire ou pas? C'est rocambolesque. Qu'est-ce qui s'est passé? En 1120, à l'époque, la Normandie, c'est en Angleterre. Hein. Enfin, plus exactement, l'Angleterre, c'est la Normandie. C'est ça qui serait plus juste. Donc, en 1120, toute la cour d'Angleterre est en Normandie, à Barfleur, très exactement, veut regagner l'Angleterre. Et vous connaissez l'histoire de la Blanche Nef? Est-ce que c'est exactement ça? Toute la jeunesse monte sur la Blanche Nef, sauf Mathilde, qui n'a pas voulu. La Blanche Nef fait naufrage à Gâteville, par erreur de navigation, un unique survivant, un boucher, et du coup, toute la fine fleur anglaise meurt bêtement. Mathilde est donc veuve à 15 ans. Vous voyez, mariée à 13 ans, veuve à 15 ans. Et que fait-elle? Elle va à Fontevraud. Et elle remplit toutes les cases. Veuve, en plus, plutôt une femme de bonne famille, et elle devient du coup abbesse de Fontevraud. Raison pour laquelle l'abbaye de Fontevraud devient à partir de là intimement liée à l'histoire anglaise, en particulier avec une femme qu'on connaît peut-être encore un peu, je ne sais pas, qui est Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine qui cherche à tout prix à se retirer à Fontevraud, mais qui échoue en raison de multiples catastrophes, peu importe, mais ça fait du coup de Fontevraud l'abbaye royale. Mais je ne sais pas si vous réalisez quand même. Toutes les filles de France ont été éduquées à Fontevraud. Jusqu'à Louis XV. Toutes les filles de Louis XV ont fait leur éducation à Fontevraud, dans une abbaye qui, jusqu'à la Révolution, a ce système-là où la mère abbesse a absolument tous les pouvoirs. Vous voyez, la société française est plus complexe que ce qu'elle veut dire. Hein. Parce que si j'étais dans une société où je voudrais que les hommes dominent absolument, je n'enverrais pas mes filles aller dans l'abbaye où c'est les femmes qui dominent. Donc, c'est plus complexe. Ça va pour Fontevraud? Des réflexions, des commentaires?
Oui, j'avais deux questions. Une pour aujourd'hui. Tu as dit tout à l'heure que les Olivetains avaient conservé l'histoire du monastère double. Il me semble que j'ai compris ça. Et est-ce qu'il y a eu aussi dans cette histoire, dans leur histoire, une femme à la tête de ces monastères doubles ou pas? Ou c'est resté chacun un abbé, une abbesse?
C'est séparé. C'est séparé parce que l'expérience de Fontevraud n'a pas fait école. À ma connaissance, il n'y a qu'une seule communauté qui a fait école et il y a plus de difficultés qu'autre chose, c'est les fraternités monastiques de Jérusalem.
Oui, d'accord. Oui, oui.
Qui est une communauté mixte, voulant vivre cette mixité, où dans les fraternités monastiques de Jérusalem, c'est normalement une femme qui domine, mais ça posait plus de problèmes qu'autre chose, mais probablement parce que les fraternités monastiques de Jérusalem n'ont pas eu la sagesse de regarder ce qui s'était passé à Fontevraud. Non pas pour dire qu'il ne faut pas le faire, mais pour dire qu'à Fontevraud, ce qui fait que ça a duré, c'est que c'est que Robert d'Abrissel a quand même fini par écouter l'Église, quoi. Ou à suivre à la fois son intuition, tout en même temps écoutant, en voyant qu'est-ce qui était raisonnable. Parce que vous voyez, on est parti du campement hippie où tout le monde était mélangé à un monastère double complètement séparé. Bon, ouais. Vous en pensez ce que vous voulez, mais c'est quand même la direction qui a fini par être prise. Donc, si on est un peu sévère, on dirait, ben oui, mais alors du coup, l'intuition d'origine n'a pas été respectée. C'est vrai. La question que moi je pose, mais elle est difficile d'y répondre réellement, c'est est-ce que l'intuition d'origine pouvait être maintenue? C'est plus quelque chose comme ça, et moi je crois que ça se joue. C'est pas tellement sur une question de place de la femme, parce que Fontevraud, vous voyez, il n'a aucun problème à donner à la femme une place éminente. Mais c'est plutôt une question qui regarde le lien entre la volonté et le réel exercice de cette volonté. le lien entre le désir et la volonté. C'est oui, plus quelque chose de cet ordre-là. Voilà.
Ça, c'était une question. Et l'autre question, il me semblait qu'en Irlande, il y avait eu des monastères doubles dans les, vers le 7e, 8e siècle ou non?
Oui. Alors,
et la réforme, justement, la réforme grégorienne a supprimé ça, ou je me trompe?
Non, avant. Bon, l'Église irlandaise, c'est un truc très bizarre. Bon, moi, je ne la connais pas très, très bien, mais je donne quelques éléments. L'Église irlandaise, on ne sait pas d'où elle sort. Mm-hmm. On ne sait pas comment elle a été fondée. En tout cas, elle échappe complètement au monde habituel.
Ouais, c'est ça.
Donc, c'est une église où il n'y a pas de diocèse, il n'y a que des abbayes. C'est une église qui est complètement liée à la société celte et une société pas du tout romanisée, dans laquelle, du coup, effectivement, les femmes ont une place qu'elles n'ont pas dans la société romaine. Et le moment où ça se passe mal, en fait, c'est avant. C'est avant la réforme grégorienne, c'est dès la rencontre du 8e siècle. En fait, c'est au 8e siècle que ça commence à mal se passer, parce que les moines envoyés par Rome découvrent une église qui fonctionne autrement, mais elle fonctionnait tellement autrement que, par exemple, ils n'avaient pas Pâques à la même date que les autres.
Oui, ça, voilà, c'est ça. Il y avait ça, par exemple. Oui.
Donc, mais ça, ça veut dire, en fait, c'est une église qui a été en autonomie complète depuis sa fondation, aussi parce que la chute de l'Empire romain a coupé l'Irlande du monde. Et l'arrivée des Saxons, des Angles et des Jutes, qui sont des païens, qui du coup ont fait que l'Église irlandaise a fonctionné complètement en autonomie. Après, dans l'histoire de l'Église, on aurait très bien pu imaginer que ce système-là perdure envers et contre tout. De la même manière qu'il y avait une église visigothique qui ne ressemblait pas du tout à l'église romaine. Bah, l'unification européenne, notamment par le réseau monastique, a fait que ça ne s'est pas fait comme ça.
De fait. Voilà. Ok, merci Philippe.
De rien. Je vais peut-être continuer un peu. Je voudrais passer à un cas encore un peu exceptionnel. Je ne vais pas m'y attarder très très longtemps. C'est les princesses abbesses chez les Germains. C'est un cas particulier, exceptionnel, et qui est lié au contexte propre au Saint-Empire. Alors, je sais qu'il y en a qui m'ont déjà entendu parler du Saint-Empire, mais que Xavier ne s'inquiète pas, on ne parlera pas de l'archi-écuyer de la tranche ce soir, ça sera peut-être une autre fois. La question, voilà, Saint-Empire, bon, peut-être que j'en parlerai un jour, mais le Saint-Empire, moi je ne dis jamais Saint-Empire romain germanique, parce que ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le Saint-Empire. Bon, il a une partie germanique, mais voilà. En fait, le Saint-Empire est un corps institutionnel très différent de ce qui se passe en Europe méridionale et en France. Alors, essayez d'expliquer ça de manière un peu générale, mais en gros, dans le Saint-Empire, le marqueur sociologique est beaucoup plus fort qu'en Europe méridionale et en France. Vous voyez, un Robert d'Arbrissel, c'est inimaginable dans le Saint-Empire. Enfin, l'idée de rassembler des gens qui viennent de tous les milieux, ce n'est pas possible. Dans le Saint-Empire, évêques, abbés et chevaliers viennent du même milieu aristocratique. C'est, j'insiste, beaucoup moins le cas en France, où il y a un peu plus de mélange. Évêques, abbés et chevaliers viennent du même milieu aristocratique. Et alors, il y a une chose qui s'est passée dans le Saint-Empire qui est à l'origine justement de la réforme grégorienne et qui ne s'est pas passée en France. Alors, ça se passe au moment de la désagrégation de l'Empire carolingien. Alors, je fais un petit retour en arrière. Lorsque l'Empire carolingien se désagrège au 9e siècle, il y a deux choses différentes qui se passent. Trois choses différentes qui se passent selon les endroits. Quand vous êtes en Italie, vous êtes dans le morcellement extrême des principautés, des cités, et avec une stricte séparation du monde politique et du monde spirituel. Ça, c'est l'Italie. Quand vous êtes en France, vous êtes dans un système certes morcelé, mais qui finit quand même plus ou moins par être réuni parlera de France grâce à Hugues Capet. Bon, ça c'est une petite pique historique, mais Hugues Capet a été élu roi de France parce qu'il ne devait pas régner. Et que les barons qui l'ont élu étaient convaincus que grâce à ça, eux, ils auraient les coups des Franches. Et c'est ça qu'ils ont raté. Mais ça, vous ne pouvez pas prévoir. En France, il y a aussi une stricte séparation du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Au contraire, ce n'est pas le cas dans le Saint-Empire. Et c'est pour ça que la réforme grégorienne, elle se pose d'abord dans les pays germaniques. Quand je vous disais que son premier acquis, c'était de séparer le spirituel et le temporel. Ça veut dire que le système germanique qui se développe dans le Saint-Empire, c'est un système complètement décentralisé, mais en même temps beaucoup plus totalitaire. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, même si quand on pense Allemagne totalitaire, on pense certaines choses, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que le système germanique n'est pas centralisé et ne pratique aucune séparation des ordres. C'est plus ça. Donc, c'est un système qui devient totalitaire. Lorsque le politique se mêle du spirituel, ça devient facilement totalitaire. Mais bon. Donc, si vous voulez, vous vous retrouvez avec un système tel que l'imaginaire médiéval, nous, on l'a dans la tête. Ou si vous préférez, le jeu des colos de Catane. Ce n'est pas très, très différent. À savoir que vous avez des chevaliers de famille noble qui se constituent des territoires. Et ça vous donne des territoires chevaleresques. Alors, vous aurez c'est des margravia, c'est des landgravia, c'est des bourgravia, bon, peu importe. Les évêques se constituent des territoires. Et vous vous retrouvez avec des principautés épiscopales. Mais une principauté épiscopale, ça veut dire que l'évêque est à la tête d'un territoire dont il est le maître temporel. Ça n'arrive jamais en France, hein. Ça n'arrive jamais en Italie. En revanche, dans le Saint-Empire, cela est très courant. Alors, pas tous les évêques, mais certains. Il y a des cas très connus, l'évêque de Mayence, l'évêque de Trèves, l'évêque de Cologne, voilà. Mieux encore, les abbés, des abbayes bénédictines ou cisterciennes ou prémontrées, se constituent des territoires. Et du coup, vous vous retrouvez avec des abbayes qui exercent un pouvoir temporel sur un territoire qui ne leur appartient pas forcément en propre. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'il faut que vous distinguiez votre possession patrimoniale et votre territoire. Si je dis dans les termes très contemporains, le préfet exerce l'autorité sur le département, pour autant, il ne possède pas tout le département. Donc, ce que je vous dis, c'est comme si l'évêque du diocèse était en même temps le préfet. D'accord ? C'est ça qui se passe. Et de même, les chanoines. Pas des chanoines, des chapitres cathédraux, mais aussi des chapitres canoniaux. Donc, vous vous retrouvez avec un système exceptionnel où des religieux sont à la tête de territoire et exercent une fonction de gouvernement qui n'est pas seulement centré sur les moines. Vous voyez, ce n'est pas la fonction de gouvernement pour les moines ou pour les frères converts, mais c'est une fonction de gouvernement pour tous les gens qui habitent sur votre territoire. Bon. Du coup, quand vous êtes en Europe occidentale ou en Europe méridionale, pour moi, qu'on soit bien d'accord, l'Occident, ça commence à la Meuse et à la Saône. Donc, tout ce qui est à l'ouest de la Meuse et de la Saône. Et le sud, pour moi, ça commence au sud du Pô, donc l'Italie méridionale. D'accord ? Donc, dans ces endroits-là, les abbayes sont d'abord des lieux de retraite du monde. Ça ne veut pas dire que les abbayes ne sont pas des grands propriétaires fonciers. Ce sont des grands propriétaires fonciers, parfois des seigneurs, qui cherche à assurer l'autonomie financière de l'abbaye. Mais voyez, quand un abbé est seigneur en France, il est toujours dans le même temps le vassal du roi. Du coup, il est pris dans un système un petit peu différent. Dans le Saint-Empire, un certain nombre d'abbayes sont des principautés au même titre que les duchés, que les margravia, que les landgravia, etc. Conséquence, les abbés qui dirigent ces abbayes siègent à ce qu'on appelle la diète d'empire, c'est-à-dire l'assemblée représentative d'empire. Bon, si vous voulez un terme équivalent, ce qu'on appellerait aujourd'hui le parlement. Donc vous avez des abbés qui ont un rôle politique général. Il y en a quand même une trentaine, ce n'est pas négligeable. Ah, mais si vous avez un abbé, ben vous avez aussi une abbesse. Et vous vous retrouvez, du coup, avec 20 abbesses princesses. Ou 20 princesses abbesses. D'accord ? Alors, traduction très simple. Dans les principautés abbatiales, mais ça, vous voyez, je ne suis pas en train de vous dire que c'est un truc exceptionnel pour les femmes. Je vous dis juste que dans le système germanique, les femmes se retrouvent à exercer un pouvoir parce que ce système prévoit ça. Dans ces principautés abbatiales, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel sont confondus. Du coup, le prince abbé est à la fois le seigneur et le maître spirituel de son territoire. Alors que dans une abbaye en France ou en Italie, l'abbé peut être le seigneur d'un paysan, mais il n'en est jamais le père spirituel. Ça veut dire que l'abbé ne peut pas utiliser les pouvoirs spirituels pour obtenir quelque chose d'ordre temporel, contrairement à ce qui se passe dans les principautés abbatiales du monde germanique. Je vous épargne la liste des 20 abbesses du monde germanique. Elles sont réparties un peu partout. Je veux dire, vous en avez en Suisse, dans la Suisse actuelle, vous en avez en Bavière, vous en avez en Autriche, vous en avez en Souabe, donc en partie plus au nord, vous en avez en Saxe, en fait, vous en avez un peu partout. Simplement, ce système s'effondre complètement en 1803, avec la dissolution de l'Empire. À titre personnel, je ne suis pas sûr qu'on ait intérêt à vouloir le restaurer. Hein. Ce qu'on n'a jamais tellement à gagner à la confusion des genres, en tout cas du spirituel et du temporel. D'accord ? Mais ça, c'est un cas qui est à part, mais que nous, Français, on a du mal à imaginer qu'à notre porte, ça pouvait se passer comme ça. Parce que la Lorraine, si vous connaissez votre géographie, c'est à l'est de la Meuse et de la Saône. Le Dauphiné, c'est à l'est de la Saône. La Bourgogne, c'est en grande partie à l'est de la Saône. Donc ce système que je vous décris, il existe également dans ces territoires. Ça va pour mes princesses abbesses ? Alors, je vous propose peut-être de continuer pour le temps qui nous reste en allant en avançant un petit peu ce que j'ai intitulé « L'impossible, il n'y aura pas de femme mendiante ». Au sens où la réforme grégorienne aboutit à la fondation des ordres mendiants. Voyez la logique. Je sépare le spirituel du temporel, je veux retrouver la saveur de l'Évangile, je fonde des ordres très austères, et la logique ultime, c'est la fondation des ordres mendiants. Et bien alors là, c'est le truc surprenant. Alors même que les femmes ont pris toute leur place dans la réforme grégorienne, voyez, on l'a vu avec Fontevraud, eh bien, il n'en va pas de même avec la fondation des ordres mendiants. Je crois qu'il y a trois raisons pour cela. Enfin, trois facteurs. Premier facteur, vers 1200, il n'y a pas de baisse de pouvoir des femmes. Donc, si vous voulez dire qu'il n'y a pas de femmes mendiantes, ça ne veut pas dire qu'il y a une restriction quant à la place des femmes. Donc, ce n'est pas ça le problème. En revanche, deuxième facteur, il faut plutôt tenir compte de la géographie. Vous avez remarqué que jusqu'à présent, je vous ai parlé de Fontevraud, on est aux frontières de la Bretagne. On n'est pas du tout dans les mondes latins. Je vous ai parlé de femmes anglaises, normandes. Je vous ai parlé de femmes germaines. Eh bien, avec les ordres mendiants, on est où ? On est à Toulouse et on est à Assise. On est dans le sud. Ça veut dire qu'on est dans le lieu du droit romain. Et le droit romain ne laisse pas une place à la femme très grande. Vous voyez, c'est vraiment la... Et pourtant, rappelez-vous ce que je vous avais dit, le droit romain est infiniment plus libéral que le droit grec. Mais bon, c'est comme ça. Troisième facteur, il faut également tenir compte tant de la sociologie que des circonstances propres aux fondations. Je veux dire par là que jusqu'à présent, on était dans le monde de la noblesse. Vous voyez, le monde de la, et même de la haute noblesse. Bon, Robert d'Aricel, c'est la noblesse bretonne, mais on finit par rejoindre, en fait, pour toutes sortes de raisons, les très grandes familles. Quand on est à Toulouse et à Assise, on ne sera pas du tout dans des grandes familles. On sera dans des familles de la bonne bourgeoisie pour Assise, peut-être un peu noble, mais ce n'est pas du même rayonnement que la noblesse française. Et pour ce qui est des dominicains, c'est de la noblesse espagnole, mais si vous voulez, un peu comme le Cid de Corneille, c'est-à-dire le bonhomme qui possède un château, une épée, mais qui n'a quand même pas grand-chose. Hein. D'accord ? Alors, je voudrais du coup commencer par les dominicaines. Donc, ce que j'ai dû, voilà, mis le cas de Prouille, les femmes invisibles, comme marquer ça. Alors, revenir du coup sur la fondation de cet ordre féminin. Pour ça, il faut revenir à l'intuition de Dominique de Guzman. Je vous donne son nom en entier. Ensuite, on fera la même chose avec les Clarisse, mais Clarisse, c'est plus intéressant. Alors, Dominique de Guzman, il naît en Castille en 1175. Il est promis au début à une carrière normale. Ça veut dire qu'il devient chanoine de la cathédrale d'Osma en 1196, à l'âge de 21 ans, une carrière ecclésiastique normale. Mais Dominique, c'est quelqu'un qui a un fort désir apostolique. Et comme il a un désir apostolique, son idée, c'est d'aller convertir les derniers païens d'Europe. Mais alors, quand vous êtes en 1196, où est-ce qu'il y a encore des païens en Europe? Eh bien, il faut aller en Lituanie, ou il faut aller dans les pays baltes. Vous voyez, il faut vraiment aller très au nord. Donc, il part en Allemagne du Nord avec un ami. Ça a un succès quand même très, très moyen. Et il finit par retourner chez lui. Et c'est là que le point est important. Sur le chemin du retour, ce que voit Dominique de Guzman, c'est les ravages de l'hérésie cathare dans le comté de Toulouse. Alors, les cathares, c'est des gens, bon, ils ne sont plus chrétiens, parce que je veux dire, quand moi je deviens dualiste, je ne suis plus vraiment chrétien, c'est ça, des choses comme ça. Mais là où il y a quelque chose qui a quand même été raté par l'Église, c'est que les cathares, c'était un de ses premiers, enfin il y en a eu d'autres, hein, mais de mouvements spirituels de laïcs désirant avoir vraiment une vie évangélique. Bon, après, ça part dans le décor parce que ça finit par sortir de l'évangile, mais il y a quelque chose qui a été raté assez vite. Or, comment est-ce qu'on a réagi face à l'hérésie cathare? Eh bien, le pape Innocent III a envoyé. Alors, j'ai rien contre le pape Innocent III, j'ai fait peut-être des mauvais choix, mais enfin, j'ai rien contre lui. Le pape Innocent III a envoyé des légats cisterciens. Alors, vous voyez, cisterciens, pour prêcher la doctrine authentique. Les cisterciens, pourquoi les cisterciens? Parce qu'en fait, les cisterciens, même si c'est des moines censés se retirer dans le monde, depuis leur fondation, c'est un peu les héros de la réforme grégorienne. Vous voyez, c'est Saint-Bernard, c'est ce monde-là. Et c'est du coup de très bons prédicateurs. Or, le problème, c'est qu'ils sont mal accueillis par la population. Et Dominique comprend pourquoi ils sont mal accueillis par la population. Parce que les légats pontificaux sont arrivés comme des légats pontificaux. Ça veut dire à cheval, avec leurs plus beaux vêtements, pour dire « moi, je vais vous dire la vérité authentique et vous allez nous obéir ». L'intuition de Dominique, qui est en fait une conversion, mais c'est une vraie conversion, hein, parce qu'eux, ils étaient à cheval comme tout le monde, c'est de dire « mais en fait, ça ne peut pas marcher ». Ça ne peut pas marcher parce que les cathares sont des gens qui vivent pieds nus et qui ne mangent que de l'herbe. Bon, je n'ai rien non plus contre les végétariens, mais là... Vous voyez, donc ils disent, si on veut se faire entendre de ces gens-là, il faut qu'on fasse comme eux, qu'on soit sur leur terrain. Parce que eux, pourquoi est-ce qu'ils sont pieds nus et qu'ils mangent que de l'herbe? C'est pour être comme les apôtres. Or, si nous, on arrive sur notre cheval avec nos manteaux, on n'arrive pas comme des apôtres, on arrive comme des princes. D'où l'idée de Dominique, il faut une prédication apostolique. Prédication apostolique, ça veut dire à la manière des apôtres. Donc, dans la pauvreté, dans l'humilité, sans prétention à l'autorité. Mais par contre, en faisant appel à l'intelligence, c'est-à-dire, ce n'est pas en disant « voici l'autorité, la doctrine authentique et vous allez maintenant la croire », c'est plutôt en disant « vous dites ça, mais vous avez tort pour cette telle ou telle raison ». Et c'est comme ça que les dominicains ouvrent la porte à la voie de l'intelligence au nom de la prédication. Alors, ce n'est pas les dominicains qui m'intéressent, c'est les femmes. Le truc étonnant, c'est la fondation d'une communauté religieuse par Saint-Dominique, enfin d'une communauté religieuse féminine par Saint-Dominique. Ça, c'est le truc bizarre. On est à Prouille, alors, il y a plusieurs manières de l'écrire, en 1206. Prouille, c'est à 30 km de Carcassonne, dans le comté de Toulouse. C'est le bastion du catharisme. Enfin, je ne sais pas si vous réalisez. C'est le bastion du catharisme. Alors, c'est peut-être la raison d'ailleurs pour laquelle Dominique choisit ce lieu. Parce que son idée, c'est pas de se jeter au milieu de la gueule du loup, mais c'est de dire la conversion, elle se fait de l'intérieur. Elle ne se fait pas, elle se fait pas de l'extérieur. C'est, si vous voulez, c'est un peu la même idée que des communautés chrétiennes établies dans le Maghreb. Dire, c'est de l'intérieur que les choses se font. Alors, pourquoi fonder une communauté religieuse? Le but de Saint-Dominique, c'est tout simplement de recevoir dans cette communauté les femmes arrachées au catharisme. Vous voyez, l'idée, ce n'est pas de fonder une communauté religieuse pour des gens qui seraient attirés par tel idéal de vie. Il s'agit d'abord de recevoir des femmes arrachées au catharisme. C'est un monastère qui, du coup, a trois fonctions. Première fonction du monastère de Prouille, la plus humaine, la protection des femmes qui sont passées du catharisme au catholicisme. Ça, c'est un truc auquel on ne pense pas assez. Parce que si vous êtes une femme, dans le comté de Toulouse, donc un endroit qui laisse quand même pas beaucoup de place aux femmes, que vous étiez cathare, que pour une raison ou une autre, vous êtes converti et que vous passez à l'église catholique, qu'est-ce que vous risquez du côté cathare? Ben, votre vie. Tout simplement. Donc, du coup, Dominique fonde le monastère pour protéger ses femmes. Donc ça, c'est la première fonction. Deuxième fonction, plus intéressante, une fonction d'évangélisation de ces femmes-là, qui sont réunies avec d'autres femmes qui ont toujours été catholiques, sans que l'on distingue les anciennes cathares des anciennes catholiques. Ça, c'est extrêmement important. Voilà, ça fait partie du charisme dominicain, vous savez. Moi, je suis fasciné par la fondation de Bétharram, par le bienheureux Jean-Baptiste Lataste. Le bienheureux Père Lataste, je suis fasciné par ça, en fait. Parce que vous mettez dans un même monastère des prisonnières et des non-prisonnières, qui est une manière de dire, vous reconstituez une communauté sans tenir compte d'abord du passé. Mais bon, je suis peut-être aussi à l'école de mon ancien évêque, Monseigneur Daucourt, qui est assez frappé par ça. Fonction d'évangélisation. De quelle manière? Eh bien, les cathares mènent une vie qui est franchement austère. C'est quand même pas très marrant d'être cathare. Eh bien, qu'est-ce que proposent les dominicains à ces femmes de Prouille? Une vie franchement austère. Alors, vous voyez, c'est-à-dire, c'est pas de dire, mais c'est là où le frère Adrien Candiar est un vrai dominicain, enfin tant mieux puisqu'il est dominicain, mais dans le petit livre qu'il a publié sur le fanatisme, qui est remarquable, c'est exactement ça ce qu'il dit. Il dit, vous ne demanderez pas à quelqu'un d'arrêter d'être fanatique en lui disant sois tolérant, ça ne marche pas ça. Vous arriverez à faire en sorte qu'il arrête d'être fanatique le jour où vous aurez évangélisé son fanatisme. C'est-à-dire, vous aurez transformé son zèle pour une communauté en zèle authentique pour Dieu. Et là, il a entièrement raison. Et bien, c'est pareil pour ces femmes. C'est-à-dire, si vous voulez que des femmes cessent d'être cathares et qu'elles deviennent réellement catholiques, il ne faut pas leur dire « vivez donc dans la dissolution », mais vous pouvez vivre votre austérité que vous recherchez en étant pleinement catholique. Vous voyez la force. Et peut-être même que le fait d'être catholique aidera votre austérité, donnera une valeur à votre austérité. Au sens qu'au lieu d'avoir un mépris de la chair comme les cathares le faisaient, vous aurez un véritable amour de cette chair, mais en la mettant au bon endroit. Quelque chose comme ça. Ça veut dire faire vivre aux femmes ce que la parole de Dieu peut accomplir dans un cœur. Surtout le moment où la prédication cathare disait que les catholiques, c'est pas très original, on en sent ça tout le temps, étaient des hypocrites débauchés. C'est-à-dire les spécialistes du « écoutez ce que je dis, mais ne regardez pas ce que je fais ». Et le monastère, au contraire, le lieu, on dit « mais non, en fait, ce n'est pas comme ça qu'on va faire ». Ça, c'était la deuxième fonction. Troisième fonction du monastère de Prouille, plus étonnant, une fonction missionnaire. Vous savez quel est le nom du monastère ? C'est le monastère de la Sainte Prédication de Prouilleux. Vous voyez, ce n'est pas le de Sainte-Marie de Trucmuche, c'est le monastère de la Sainte Prédication de Prouilleux. Pourquoi ? Parce que les moniales de Prouille sont invitées à prier pour la mission des prêcheurs, donc des hommes. Pour lui, cette fonction de prière est une fonction missionnaire. C'est important parce que moi, je ne sais pas pourquoi le peuple chrétien a réduit la prière à une fonction de bienfait personnel. Et ça, c'est une vision très étriquée de la prière. Alors que la prière, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Donc, l'intuition de Saint-Dominique, mais qui n'est vraiment pas originale, c'est de dire qu'aucune œuvre humaine n'est efficace sans prière. Donc, le monastère est prière au service de la prédication. Donc, ça veut dire que pour Saint-Dominique Prouille, c'est la base centrale de l'œuvre qu'il a fondée. Bon, moi, j'insiste là-dessus. Hein. On peut réfléchir pendant des heures sur la manière dont une paroisse doit fonctionner, dont l'Église doit fonctionner. Si on ne prie pas, ça ira dans le mur, quoi qu'il arrive. De manière aussi simple que ça. Alors, la Prouille, du coup, est un truc qui est assez original. Moi, je crois que c'est la première fois dans l'Église où il y a un monastère de femmes, certes retirées du monde, qui prie pour l'évangélisation, pour la mission. On retrouvera ça avec Thérèse de Lisieux, si vous voulez, dans son Carmel, mais les jésuites n'ont jamais inventé ça, en fait. Hein. Les jésuites, il n'y a pas d'ordre féminin qui est lié, eux, c'est une histoire d'hommes. Bon, c'est une petite parenthèse, mais voyez, les jésuites, ça, c'est un truc du XVIe siècle. Il n'y a pas de femmes. Les dominicains, il y a des femmes. Prouille, qui, du coup, en même temps, la base centrale des dominicains, ça veut dire que c'est le lieu de repos du guerrier. Donc, en fait, c'est un monastère double. Vous avez la partie pour les femmes, et puis vous avez la partie pour les hommes. Et les hommes, c'est qui ? Ben, c'est les dominicains qui viennent se reposer, se ressourcer. C'est encore un système actuel. C'est-à-dire que les monastères dominicains, de dominicaines, par exemple, Notre-Dame du Chalet à côté de Grenoble, la Sainte-Baume, tous ces monastères-là sont des monastères où les dominicains font leur retraite. Alors, petit commentaire sur la communauté de Prouille. Parce que ça, c'est quand même intéressant. Parce que je vous l'ai montré de manière assez belle. Maintenant, je voudrais quand même vous faire montrer quelques limites. Dominique, c'est un Espagnol. Donc, la femme espagnole, ça vit à l'intérieur. Inimaginable pour Dominique de penser autrement. Puisqu'elle vit à l'intérieur, les femmes arrachées au Qatar doivent vivre à l'intérieur, contrairement aux femmes germaniques. Dominique, c'est un clerc, donc un intellectuel, que ça lui plaise ou non, mais au sens correct du terme, c'est-à-dire un savant. Eh bien, les clercs du XIIIe siècle, c'est des hommes. Donc, il n'est pas possible qu'une femme prêche. Parce que pour Dominique, la prédication, c'est une œuvre d'abord d'intelligence. Alors, quand il dit ça, ce n'est pas pour dire que les femmes ne sont pas intelligentes. C'est pour dire que pour lui, ce n'est pas dans son schéma mental. Voyez, c'est-à-dire, il ne faut pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Ce n'est pas dans son schéma mental. Du coup, troisième limite, Dominique, c'est un latin pour qui le monde doit être bien organisé, avec une stricte répartition des tâches, à l'image de ce qu'est encore l'ordre dominicain aujourd'hui. Les femmes prient et assurent l'hospitalité. Les hommes prêchent à l'extérieur. Mais faites attention, je vous en supplie. Ça ne veut pas dire dans l'esprit de Dominique que les femmes font un rôle moins important. Ce n'est pas comme ça que ça marche pour lui. Ce n'est pas une histoire de hiérarchie, c'est une histoire de répartition. C'est plus comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, il est possible que pour lui, aller prêcher, c'est être beaucoup plus exposé que rester à l'intérieur. Et dans le même temps, si vous avez bien entendu ce que j'ai dit, pour lui, la prière de ces femmes est absolument indispensable à la prédication. C'est-à-dire qu'il est convaincu que si les dominicaines ne prient pas, la prédication des dominicains ne marche pas. Donc, c'est quand même une condition extrêmement importante. En quelque sorte, dans l'état d'esprit des dominiques, si je reviens à des catégories évangéliques, les dominicaines, c'est Marthe et Marie réunies. Marie priant, Marthe servant. Et les dominicains, c'est les apôtres, les 72 disciples envoyés en mission. C'est un peu comme ça qu'ils pensent la répartition des tâches. Conséquence. Alors que les dominicains sont des mendiants qui doivent trouver leur subsistance en même temps qu'ils prêchent, les dominicaines ne sont pas des mendiantes, mais vivent selon la même règle patrimoniale et financière que toutes les abbayes cisterciennes. Ça veut dire que les monastères dominicaines, c'est des monastères qui ont des biens, etc., exactement comme les monastères cisterciens. Ça va pour les prouilles et les dominicaines? Mais vous voyez, bon, c'est un cas où on invente quelque chose et en même temps, on est atteint aussi par ses propres limites mentales. Mais ce n'est pas très grave, hein, je veux dire, on est tous atteints par nos propres limites mentales. Alors, dernier cas. Si je ne finis pas aujourd'hui, on finira la semaine prochaine. Ce n'est pas très grave. Les Clarisses. Eh bien, alors, c'est pareil. Elles non plus ne seront pas mendiantes. C'est un peu comme si la mendicité des femmes posait vraiment problème. Parce qu'une femme mendiante, on est quasiment du côté de la prostitution, quoi, vous voyez. On est du côté de la marginalité totale. Alors, c'est pas qu'un homme mendiant, ça soit beaucoup mieux, mais ça paraît pas terrible. Alors, Sainte-Claire, je vous ai mis là quelques textes parce que là, qui me paraissaient vraiment intéressants pour essayer de comprendre comment les choses se font. Alors, on est obligé de revenir au problème de Saint-François. Donc, Claire, famille de la noblesse locale, Santa Chiara, Offreducci di Favarone. Donc déjà, quand vous avez un nom à rallonge, ça veut dire que vous venez de la noblesse. Peu importe. Elle naît à Assise en 1194. On est toujours, vous voyez, dans les mêmes... Vous voyez, on est toujours dans les mêmes époques. En 1210, Sainte-Claire entend la prédication de Saint-François d'Assise. François d'Assise, c'est le fils d'un bourgeois marchand de draps d'Assise. Donc, vous voyez, c'est la bourgeoisie d'Assise, quoi. Moi, je trouve ça fascinant que dans un monde riche, parce que le XIIIe siècle, c'est un monde riche, fils d'un bourgeois catholique, aimant l'Évangile, finissent par tout quitter par amour de la pauvreté du Christ. Regardez qui sont aujourd'hui, en tout cas en Europe occidentale, les gens qui vont dans les ordres les plus radicaux. Je pense par exemple aux petits frères, aux petites sœurs de l'agneau. Ben, ils viennent tous de très bonnes familles versaillaises. Et ben, c'est quand même assez intéressant. Alors on peut dire, ah, ça y est, c'est encore des Versaillais. Mais non, c'est parce que c'est des gens qui ont réellement écouté l'Évangile. Et c'est ça qui leur a été transmis chez eux. Donc, moi, ça me fascine. Voilà. Alors, Sainte-Claire entend la prédication de François d'Assise. Alors, vous voyez, là, j'ai dit prédication. Vous avez un homme laïque qui prêche. Certes, en dehors de l'Église, mais il prêche quand même. Sainte-Claire est enflammée par la prédication de saint François d'Assise. Tellement enflammée qu'elle rêve d'être missionnaire. Elle veut sillonner la Méditerranée, aller à Rome, à Jérusalem, à Compostelle, enfin, vraiment partir dans le sens le plus strict du terme, tout quitter pour le Christ. Finalement, c'est quand même un petit peu plus modeste. Puisque en 1212, se passe-t-il? Elle quitte sa famille en cachette. Alors ça y est, ça commence mal, parce qu'on est en Italie. Vous ne pouvez pas partir comme ça de chez vous, enfin quand même. Donc en plus, vous avez vu l'âge qu'elle a, elle a 18 ans. Donc elle part en cachette, aidée par une tante. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle rejoint saint François et ses compagnons qui sont à la Portioncule. Alors, pour ceux qui connaissent un peu Assise, la Portioncule, c'est la petite église qui est à l'intérieur de la grande basilique de Sainte-Marie-des-Anges. Donc, c'est en dehors de la ville d'Assise, c'est à 2 km d'Assise, au pied de la montagne. Ah, ça ne vous dit pas quelque chose, cette histoire, non? C'est comme Robert d'Arbrissel. Hein, c'est-à-dire que François, avec sa bande de demi-clochards itinérants, a réuni autour de lui des hommes et des femmes. Ça commence comme ça. Et du coup, en signe de renoncement, elle se coupe les cheveux et elle revêt une tunique de toile grossière. Ah, je vais vous lire pour vous faire comprendre un petit peu l'univers. Le début de la lettre de Jacques de Vitry. Donc Jacques de Vitry, c'est un personnage assez important. Il est légat pontifical. Enfin, c'est quelqu'un qui a laissé beaucoup d'écrits au début du XIIIe siècle. Donc, c'est une bonne source pour connaître l'histoire de l'Église à cette époque-là. Il vient du Nord, il ne connaît pas le Sud, donc il est toujours un peu surpris. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? 1216. Comme j'avais été un certain temps à la Curie, donc à Rome, je trouvais bien des choses contraires à mon esprit. Bon, autrement dit, Rome, c'est quand même pas très évangélique, de dire ça. Donc, je vais penser la même chose quand je suis arrivé à Rome en 2013. On y était en effet si occupé des affaires séculières et temporelles, de rois et de royaumes, de procès et de litiges, qu'on vous permettait à peine de parler en quoi que ce soit des matières spirituelles. En ces régions, j'ai cependant trouvé une consolation, car beaucoup de riches et de séculiers des deux sexes, ayant tout abandonné pour le Christ, fuyaient le monde, on les appelait frères mineurs et sœurs mineures. Je reviendrai après sur la suite du texte. Mais voyez, les deux, hommes et femmes. Alors, pour Claire, comment ça se passe? On n'est pas dans l'Anjou du XIIe siècle, on est en Italie au XIIIe siècle. Du coup, hors de question pour saint François qu'une femme sortie de la noblesse locale devienne une demi-clocharde franciscaine. Pas possible. Du coup, François l'envoie dans un couvent. Vous voyez comment ça marche? Il l'envoie dans un couvent de bénédictines près d'Assise qui tiennent un hospice. En fait, l'idée de François, c'est de dire, avec nous, tu ne vas pas pouvoir mener la vie religieuse. Parce que nous, on est des hommes et les femmes et les hommes, ça ne peut pas être ensemble. Toi, tu as envie d'être pauvre. Eh bien, moi, je t'engage, tu vas servir les pauvres dans un hospice qui sert les pauvres. En fait, c'est pas très original comme idée. Hein. C'est plutôt une idée assez classique hein, de dire, tu as le désir de la pauvreté, ben, si tu as le désir de la pauvreté, mets-toi au service des pauvres. C'est plutôt raisonnable. Vous voyez, Saint-François, ça peut être raisonnable, en fait. Bon. Le problème, c'est que la famille de Claire est furieuse. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est furieux et que sa fille est partie? On lui court après. pour lui faire respecter les convenances. Vous savez, ce qu'il y a de plus horrible dans le christianisme, c'est le respect des convenances sociales. Enfin, je vous le dis assez franchement, hein. On s'en fiche des convenances sociales. Donc, l'idée de dire, c'est « tu vas revenir à la maison ». Moi, je suis quand même frappé de voir que pour les femmes aristocratiques, c'est une question qui se pose peu. Alors que pour les femmes de la bourgeoisie citadine, c'est une question qui se pose régulièrement. Comme si pour les bourgeois, la question des convenances sociales avait beaucoup plus d'importance. Mais tant pis. Comme Claire tient à son projet, elle s'enfuit une deuxième fois. Et alors cette fois-ci, elle part avec sa sœur. Et elle va chez d'autres bénédictines. Et c'est là que le point important arrive. Parce que tout ça, ça se fait dans un espace de temps très bref. En avril 1212, finalement, Saint François d'Assise installe Claire et ses copines dans l'église Saint-Damien. Alors, je vais peut-être dire les choses en prenant. Voilà. Alors, on va lire la suite de la texte, du texte de Saint-Jacques de Vitry, de Jacques de Vitry, et puis après, je prendrai le testament de Sainte-Claire d'Assise parce que les deux sont intéressants. Alors, la suite du texte. Le Seigneur Pape et les cardinaux tiennent donc ces gens-là en grande révérence. Ceux-ci ne s'occupent nullement des affaires temporelles, mais avec un désir fervent et un zèle ardent, ils travaillent chaque jour à arracher aux vanités du monde les âmes en péril et à les conduire avec eux. Par la grâce de Dieu, ils ont déjà produit un grand fruit et gagné de nombreuses personnes, afin que celui qui entend dise « viens » et que le voile tire le voile. Ils vivent selon la forme de l'Église primitive, voilà le modèle de l'Église apostolique, dont il est écrit « à la multitude des croyants, il n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. » Un seul cœur et une seule âme. J'aimerais bien qu'on dise ça de l'Église aujourd'hui. Je regrette fortement qu'on ne le dise pas de l'Église aujourd'hui. De jour, ils se rendent dans les cités et les villages en œuvrant par l'action afin de gagner quelques-uns. La nuit, ils regagnent leurs ermitages ou des lieux solitaires pour s'adonner à la contemplation. Donc ça, c'est les frères. Donc les frères, ils ne dorment pas, puisque le jour, ils prêchent et ils mendient, et la nuit, ils prient. Les femmes, quant à elles, demeurent ensemble près des cités en divers hospices. Elles n'acceptent rien, mais vivent du travail de leurs mains. Elles souffrent beaucoup et sont tourmentées du fait qu'elles sont honorées par les clercs et les laïcs plus qu'elles ne voudraient. Alors, Jacques de Vitry nous dit donc qu'il y a une spécialisation des hommes et des femmes. Et vous voyez, c'est un système très différent du système dominicain. Le système dominicain, c'est répartition des tâches. Là, c'est deux mondes qui n'ont rien à voir. Vous avez les hommes qui prêchent la pauvreté, qui mendient et qui prient, et des femmes qui, de leur côté, travaillent et qui prient, mais qui n'ont pas de lien véritable entre les deux, si ce n'est le lien spirituel de l'amour de la pauvreté. Alors, pourquoi cela? Probablement à cause de la fondation de cette communauté de Saint-Damien. On l'a, alors, dans le testament de Sainte-Claire, qui est là quelque chose d'assez important. Bon. Je vais sauter... Voilà, je vais au deuxième paragraphe directement du testament. Nous devons donc, chères sœurs, considérer les grâces immenses que Dieu nous a octroyées, mais surtout celles qu'il a daigné opérer en nous par son serviteur bien-aimé, notre Père, le bienheureux François, non seulement après notre conversion, mais alors même que nous étions encore dans les vanités du monde. En effet, alors que ce saint n'avait ni frère ni compagnon, quasi immédiatement après sa conversion, alors qu'il construisait l'église Saint-Damien, là où, totalement envahi par la sollicitude divine, il fut poussé à abandonner complètement le monde, saisi d'une grande joie et éclairé par l'Esprit Saint, il a prophétisé à notre sujet ce que Dieu a ensuite accompli. Montant en effet un jour sur le mur de cette église, Saint-Damien, il dit à haute voix en langue française à des pauvres qui se trouvaient là venez m'aider à construire ce monastère de Saint-Damien, car un jour vivront ici des dames dont la vie sainte et renommée glorifiera notre Père des cieux dans toute sa sainte Église. Alors, ce que Sainte-Claire raconte ici, c'est la vision de Saint-Dominique, de Saint-François à la Porciuncule, où le Christ lui apparaît et lui dit « François, rebâtis mon Église », qui se comprend de deux manières. Rebâtis mon Église au sens « prends tes mains, ton marteau et reconstruis la petite chapelle en ruine à Saint-Damien ». Et c'est ça que François comprend. Et qui se comprend d'une seconde manière, c'est « mon Église est empêtrée dans les problèmes de pouvoir, je développe la voie de pauvreté pour la réédifier d'une autre manière ». Mais les deux manières vont ensemble, hein. C'est ça qui est important. Bon. Je continue le testament. Après que notre très haut Père du ciel eut daigné par sa miséricorde et sa grâce éclairer mon cœur, afin que selon l'exemple et l'enseignement de notre bienheureux Père François, je fisse pénitence peu de temps après sa propre conversion, et cela en compagnie de quelques sœurs, que peu de temps après la mienne le Seigneur m'avait donnée, je lui promis volontairement obéissance, en conformité avec la lumière de grâce que le Seigneur nous avait donnée par sa sainte vie et son enseignement. Le bienheureux François savait que nous étions physiquement faibles et fragiles, et qu'en dépit de cela, nous n'avions nullement renoncé au dénuement, à la pauvreté, au travail, à la peine, pas plus qu'au mépris et au dédain du monde. Mû par sa tendresse à notre égard, il s'est fait un devoir pour lui-même et pour son ordre d'avoir pour nous, autant que pour ses frères, un soin diligent et une sollicitude spéciale. Alors, l'idée est la suivante. Saint François n'avait pas du tout envie d'avoir des religieuses à sa solde. Or, ce n'était vraiment pas son problème, lui. Lui, il voulait réunir des frères amoureux de la pauvreté. Le problème de Claire, c'est qu'elle l'oblige à faire un pas spirituel qu'il n'avait pas prévu. Et le pas spirituel qu'il n'avait pas prévu, c'est d'accepter d'être lié à une communauté féminine. Vous voyez ? Bon. Quand on lit les lignes que je viens de lire, pour François, les femmes sont physiquement faibles et fragiles. Bon, ça, c'est un topos de toute la littérature. Elles veulent être pauvres. Et ça, il l'entend. Vous voyez, la force de François, c'est de... Vous voyez, le raisonnement normal, ça va te dire. Vous êtes faible et fragile, vous ne pouvez pas être pauvre. C'est de dire, vous êtes faible et fragile. Pourtant, l'Esprit Saint vous pousse à la pauvreté. Donc, il faut que je trouve un moyen de vous assurer cette pauvreté. Le premier moyen de François, ça avait été d'installer Claire dans un hospice. Ça n'a pas marché. Donc, François, qui est un homme spirituel, dit, si ça n'a pas marché, c'est que l'Esprit Saint attend quelque chose d'autre de moi. Vous voyez, François, ce n'est pas la voie de l'obstination, hein, c'est autre chose. Alors, du coup, il se dit, bah, comment faire? Mais pour lui, il est évident que les moniales, enfin, que les franciscaines ne peuvent pas devenir des mendiantes. Toujours le même blocage. Parce que ça serait trop fragile, parce que ça serait trop scandaleux. En plus, vous imaginez une femme de bonne famille d'Assise qui mendie aux portes de la ville. Enfin, ça, c'est pas sérieux, quoi. Et donc, du coup, lui, il honore leur désir de pauvreté en les invitant à travailler de leurs mains, et même mieux, en faisant les choses autrement. Alors, ça veut dire que dans le choix spirituel de Saint François, ce qu'il y a eu de premier, c'est la pauvreté. Vous voyez, c'est de dire, dans les conditions qui sont les nôtres, qu'est-ce qu'il y a de premier? La pauvreté. Alors, du temps de François, il a quand même fallu faire une structuration. Parce que vous voyez, c'est aussi le problème de l'Église. C'est que le charisme, c'est bien, mais ça risque de partir dans tous les sens. Et parfois, il faut que structurer un peu le charisme. C'est ce que Balthazar médite quand il médite la figure de Pierre et la figure de Jean. Vous savez, c'est un truc classique, mais pourquoi est-ce que lorsque Jean et Pierre courent au tombeau, il y en a un qui va plus vite que l'autre? Jean court plus vite que Pierre. Ok, il était plus fort à la course, certainement. Il était plus jeune aussi. Mais il y a une vraie raison spirituelle. C'est que Jean, c'est le charisme. Donc le charisme, il va devant. Et pourquoi est-ce que Jean attend Pierre pour rentrer dans le tombeau? Pour la même raison. C'est que Jean, il attend l'institution. parce qu'il sait qu'elle va plus loin. Mais en fait, c'est la manière dont Balthazar commente cette affaire et je trouve que c'est assez intéressant. Alors, la structuration. À l'origine, il y a une seule communauté franciscaine qui obéit à Saint-François, des frères qui vivent dans des ermitages, tous les petits ermitages que vous avez autour d'Assise, les Carcieri, River Torton, etc., et des sœurs qui, elles, vivent dans des hospices. Mais c'est une seule branche. Dans un deuxième temps, comme Saint-François se rend compte que ça ne marche pas très très bien, il finit par constituer deux branches. Une branche masculine et une branche féminine, parce qu'elles ont des vies tellement différentes qu'on ne peut pas faire autrement. Mais lui reste le maître des deux branches. Troisième temps de la structuration, c'est l'invasion des femmes de la noblesse d'Assise dans la communauté. Et du coup, on invente les pauvres dames d'Assise ou Clarisse. Les Clarisses, elles obéissent à qui? À Sainte-Claire, tout en se réclamant du charisme de Saint-François. C'est l'heure, je vais m'arrêter là. Je terminerai la semaine prochaine avec la structuration des Clarisses parce que c'est assez intéressant sur la question du rapport aux femmes, du rapport des femmes à la pauvreté, ce genre de choses. Peut-être que s'il y a une remarque immédiate, je peux la prendre quand même.
Je me disais juste que les femmes mendiantes, il y en avait simplement. Là, visiblement, ce qui gêne, c'est qu'elles soient de la noblesse et qu'elles soient mendiantes.
Oui.
Des femmes mendiantes, des pauvresses, il y en avait dans l'Europe à cette époque-là, il y en avait.
Il y en avait, mais attention. Attention, c'est que le pauvre, alors, il ne faut pas se tromper. Le pauvre, dans l'Europe médiévale, est à l'image du Christ. J'ai oublié de le dire, mais il y a une image très positive du pauvre. Pourtant, vous savez, moi, je suis historien moderniste de formation. Eh bien, c'est l'histoire moderne qui a fait du pauvre quelqu'un de honteux. Le pauvre du médiéval est à l'image du Christ. En revanche, il est à l'image du Christ, mais du coup, il faut qu'il vive à l'image du Christ. Et pour vivre à l'image du Christ, c'est dans des hospices. J'en parlerai la semaine prochaine avec les béguinages et autre chose, mais les hospices, c'est des monastères bis, en fait. Le problème, c'est que la femme mendiante, elle est pauvre, et en plus, surtout si elle travaille un peu, qu'elle ne peut pas gagner suffisamment, elle n'est plus à l'image du Christ. Surtout si elle a choisi volontairement la pauvreté. Parce que le monde médiéval ne peut pas comprendre ce choix volontaire de la pauvreté.
Oui, c'est plutôt ça. C'est le fait que ce n'est pas forcément volontaire des mendiants.
Ce n'est pas une question sociologique, oui, oui. C'est une question de choix volontaire.
C'est-à-dire, oui, c'est ça, oui, tout à fait.
Mais c'est comme, vous savez, je dis de manière générale, c'est comme aujourd'hui, là, moi je sens que la plus grande incompréhension de la part de mes contemporains, c'est d'imaginer que je choisisse une vie où je ne veuille pas m'enrichir. C'est la plus grande incompréhension de la part de mes contemporains et des gens de ma génération. Parce que les gens de ma génération vivent dans un monde où il est normal de s'enrichir. D'ailleurs, c'est ce que nous raconte toute la société. Vous voyez, c'est... Oui. Ah, si, vraiment, vraiment, je vois, je parle de la jeunesse non chrétienne, pour elle, c'est normal de chercher la voie d'enrichissement. Alors après, parfois, ça bouge autrement, mais l'idée de dire que choisisse une voie dans laquelle on ne s'enrichit pas, ça paraît complètement... à rebrousse-poil, mais il y a quelque chose comme ça dans l'affaire de Sainte-Claire. Bon, ce qui gêne, oui, c'est la pauvreté volontaire. Et parce que une pauvreté, et surtout une pauvreté volontaire qui ne passe pas par le travail. Parce qu'une pauvreté volontaire où je travaille de mes mains, c'est acceptable. Une pauvreté volontaire où je ne travaille pas, c'est pas acceptable, en fait. Mais encore aujourd'hui, hein, lorsque les petites sœurs de l'agneau vivent cette pauvreté, c'est les dominicaines à l'origine, les frères de l'agneau, vivent cette pauvreté de la manière la plus radicale qui soit, ça paraîtrait d'être enjouant hein, quand même. D'accord ? Bon, on va s'arrêter là. Pareil, hein, si la semaine prochaine, en début, des interrogations, y compris sur Fontevraud ou sur mes mendiantes, eh bien, je les prendrai. Je terminerai les mendiantes et je vous donnerai, dans cette semaine, vous enverrai quelques textes sur les contributions de femmes à la vie de l'Église. Enfin, moi, j'ai appelé ça mystique et intellectuelle, parce que c'est exact, ça sera ça le sujet. Je voudrais qu'on s'occupe de Julienne de Montcornillon,
bah oui,
de Julienne de Norwich, de Catherine de Sienne et des Béguines. Voilà, ça nous occupera. Je finirai pas, mais c'est pas grave. Allez, bonne soirée à chacun.
Merci.
Merci. Salut Philippe, bonne soirée.
Merci.
Merci, bonne soirée.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
De rien.